Françoise Vergès, originaire de l'île de la Réunion dans l'océan Indien, j'écris des essais. Je suis curatrice indépendante, je fais parfois des expositions et je travaille beaucoup avec des artistes et des activistes autour de thèmes.
De deux thèmes.
Enfin, autour de thèmes. Par exemple, pour la Biennale de Berlin en 2022, j'avais proposé un atelier performance sur les refuges et les sanctuaires, qui se posait contre les politiques anti-migrants en Europe et posait la question, n'est-il pas urgent et nécessaire de construire des refuges et des sanctuaires tout au long, partout dans l'Europe? Et qu'est-ce que seraient ces refuges et ces sanctuaires? Qu'apporterait-il? Qu'offrait-il? Pas seulement les questions d'urgence humanitaire, ça c'est pris en charge énormément par des tas de personnes, mais plutôt un endroit où on pourrait vraiment se reposer, lire, prendre le temps, avoir sa chambre à soi, pouvoir passer du temps. Donc c'était autour de ça. Donc j'ai travaillé avec des artistes et des activistes et des réfugiés d'Irak et d'Afghanistan notamment. Et on a monté une performance après avoir travaillé en atelier, qui a été ensuite produite sur une grande place qui est à Berlin, où les réfugiés savent qu'il faut aller là quand ils arrivent à Berlin, parce que c'est là qu'ils vont trouver où pouvoir aller manger, se loger, d'aide pour les papiers. Donc les réfugiés nous avaient demandé de le faire là, de faire cette performance. Donc nous l'avons faite là, qui est dans un quartier populaire de Berlin. Donc voilà, ça c'est ce genre de choses. J'en ai fait plusieurs, ça c'était la plus récente, mais j'en ai fait de cet ordre, ben, en Europe, mais aussi en Inde et dans d'autres endroits. C'est de mettre ensemble des activistes, des artistes et des chercheurs, et ensemble de construire quelque chose qui est, je dirais pas un spectacle, parce que c'est vraiment une performance une fois, mais c'est de pas faire une table ronde, c'est pas une conférence, c'est de mettre en son et en mouvement un thème.
J'aurais bien aimé être là pour voir ou pour
Ben,
écouter.
celle de la Biennale, je crois que vous pouvez la voir en ligne sur le site de la Biennale. Et voilà, c'était vraiment une invention, quoi, si vous voulez, parce que il y avait aussi un orchestre de femmes queer kurdes qui ont fait de la musique. Et donc la question, c'est de mettre tout ça ensemble pour quand même faire quelque chose qui raconte. Il y a un récit, mais c'est pas du théâtre. On n'est pas en train de déclamer. Parfois, il y a des paroles, mais pas toujours. Il y a de la danse, il y a de la mise en mouvement. Voilà. Oui, alors j'ai grandi à l'île de la Réunion. Mes parents étaient des militants anticoloniaux du communisme du Sud, c'est-à-dire c'est pas le communisme européen. Et j'ai grandi avec vraiment une éducation, je peux dire politique, au sens où on parlait de tout à la maison. J'entendais parler de plusieurs choses et j'accompagnais mes parents ou mes parents nous emmenaient les enfants dans leurs différentes activités militantes. Donc j'ai très petite, j'ai remarqué comment la domination française avait un effet sur le corps, pas simplement donc c'était pas simplement la terre qui est prise ou exploitée, mais sur les corps et notamment sur les corps des femmes, des femmes réunionnaises, par manque de par pauvreté, par manque de soins, il n'y avait pas suffisamment de maternité, d'hôpitaux. Donc j'ai constaté ça, même si j'en ai pas fait nécessairement une analyse tout de suite quand j'étais petite. Et cette histoire, donc, pour moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est comment le même État pouvait avoir des politiques différentes et que ce n'était pas contradictoire, qu'il ne fallait pas voir ça comme une contradiction. Vous voyez, c'est-à-dire l'État en France va avoir des politiques et ne veut pas avoir les mêmes dans des territoires d'outre-mer. La Réunion, c'est un territoire d'outre-mer. À partir de 45, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ce n'était plus une colonie. C'était un département français, c'est-à-dire à égalité avec les autres départements en France. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que un même État peut avoir deux politiques, mais c'est pas en contradiction. C'est pas il fait ça là et puis finalement il fait autre chose. C'est là, c'est en fait, ce sont des choix. C'est constamment des choix politiques. Le choix pour cela, le choix pour cela. Et mon argument était que les choix politiques étaient en fait produits par le racisme esclavagiste et le racisme colonial. C'est-à-dire que ça avait un poids même dans les années 60, 70, 80 et encore aujourd'hui. Donc, j'ai analysé ça dans plusieurs champs. Par exemple, j'avais écrit, mais c'était en anglais, sur la psychiatrie. Comment la psychiatrie avait été un outil de domination dans la colonie, en prenant l'exemple de la Réunion, mais en prenant aussi l'exemple de l'Algérie. Et là, pour plusieurs autres questions, donc je me suis intéressée aussi à la manière dont la famille réunionnaise était décrite par des psychiatres français, qui était toujours une manière de pathologiser cette famille. Elle n'était pas une bonne famille, ça se passait pas très bien. Toujours en comparaison avec un modèle qui était le modèle français, la famille française, elle était bien comme il faut, et la famille réunionnaise, il y avait toujours des défauts. Donc cette constante politique qui part du même intérêt de l'État, mais qui va être différente parce que cette politique va prendre en compte des questions de classe, de race et de genre.
Oui, et donc la politique sur le corps des femmes, et expliquez-nous si un petit peu, voilà, parce que peut-être des gens vont écouter ça, ils connaissent pas ce qui se
Oui.
passait à l'île de la Réunion avec la politique des avortements. Enfin,
Oui. Alors, c'était aussi, si vous voulez, quand j'écris quelque chose, ça part toujours d'une question que je me pose, ou quelque chose que je remarque. Et là, en 2015, il y avait énormément de livres sur la loi Veil qui a décriminalisé l'avortement en France. Et donc, une grande victoire. Donc, quelques années plus tard, commémoration. Et je regarde plein de livres, je lis plein de livres qui sortent à cette occasion, et pas un ne parle des avortements forcés sans consentement. Alors, je suis quand même étonnée, c'est quand même des milliers. Aucun ne parlait non plus du fait que la politique d'avortement de contraception n'était pas la même en France et dans ces territoires. Et là, me revient ce dont ma mère m'avait parlé, puisque ma mère était une militante féministe, de ces avortements à La Réunion. Et là, je décide donc d'en parler, d'analyser cet événement. C'est dans les années 70, donc c'est quand même tardif. On n'est plus du tout, c'est pas le 19e siècle, c'est pas avant la Deuxième Guerre, c'est dans un moment où, en France, les questions de sexualité, les questions de genre, tout cela se pose. Il y a les mouvements des gays, des queers, tout ça se pose. À La Réunion, c'est continue à être la domination raciale et de classe. Donc, je voulais montrer de nouveau que cette politique de l'État français n'était pas contradictoire. C'était pas ah oui, mais on fait ça là et puis on fait ça autrement. Mais le autrement était dicté par des choix politiques. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est au moment où en France il y a de grandes manifestations féministes, mais des milliers de femmes sont dans les rues pour demander l'accès libre à l'avortement, que des médecins sont envoyés en prison, payent des amendes, que des femmes sont arrêtées, qu'il y a des procès pour avoir avorté, puisque l'avortement était un crime encore, jusqu'en 75. Au même moment, à La Réunion, il y avait des avortements par milliers. Et la contraception, qui était encore très difficile d'y avoir accès en France, aller à la pharmacie et demander une contraception n'était pas du tout automatique. Elle était distribuée largement à La Réunion, même à des mineurs, sans consentement parental. Donc je me dis, il faut d'abord que je raconte cette histoire qui est peu connue, et ensuite que j'explique pourquoi ça a été normal, si normal, si vous voulez, ça n'a pas. Il a fallu que l'histoire sorte pour que ça fasse scandale, mais en fait, elle avait pendant 2, 3 ans, il y a eu des milliers d'avortements sans que ça fasse scandale. Alors qu'au même moment, je répète, en France, les médecins étaient arrêtés, envoyés en prison les femmes. Donc c'est cette approche-là. Et ce que j'ai voulu comprendre justement, c'est pourquoi des médecins blancs, des hommes blancs français, s'étaient sentis totalement autorisés à pratiquer des avortements sans consentement. Mais que oui, que il s'était vraiment senti autorisé. Donc je voulais comprendre cette naturalisation cette légitimation dans leur tête de cela. Donc j'ai remonté le fil parce que et de voir d'une part qu'en 47 l'État français décide que le développement dans ces territoires est impossible et que la solution c'est organisation de la migration et contrôle des naissances qui se mettront vraiment en place dans les années 60. Et à partir de là, je tire encore un fil dans le passé, mais qu'est-ce que l'État a fait sous l'esclavage? Et qu'est-ce que l'État a fait dans la colonisation post-esclavagiste pour la reproduction sociale, pour ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire faire des enfants? Et sous l'esclavage, l'État français a très peu choisi la reproduction, pour parler ainsi. L'État français a choisi l'importation constante d'esclavisés. Donc on a par exemple à La Réunion, dans certaines plantations, je vous dis un chiffre comme ça, vous pourriez avoir sur 100 esclaves 80 hommes et 20 femmes. C'est pas du tout pareil aux États-Unis par exemple, où dès 1808, les États-Unis choisissent la reproduction locale. C'est-à-dire c'est vraiment la traite en fait se fait à l'intérieur des États-Unis et la reproduction, c'est-à-dire de forcer les femmes noires à avoir des enfants, se fait aux États-Unis. Donc il y a beaucoup moins d'importations. Donc là, à partir de là, donc je vois que l'État français avait choisi la reproduction, si vous voulez, de la main-d'œuvre asservie par importation. Parce que ce qu'on peut appeler l'espérance de vie dans les plantations était de 8 à 10 ans. Donc et puis parfois ça a été un peu plus au fur et à mesure parce qu'ils ont fait un peu plus attention, mais il leur fallait toujours renouveler la force de travail asservie, esclavisée. Donc j'observe ça. Et aussi, une chose, c'est que très très tôt, les relations sexuelles sont très surveillées par l'État esclavagiste. Les relations entre hommes blancs et femmes noires sont criminalisées. Et alors, entre hommes noirs et femmes blanches, c'est même pas concevable. Ensuite, que l'esclavagisme interdit de faire famille. Les Noirs ne pouvaient pas constituer des familles, puisqu'à tout moment, on pouvait enlever les enfants, on pouvait séparer la femme de son compagnon ou de son mari, les revendre, vendre l'enfant. Donc tout cela montrait que, si vous voulez, même la manière dont un mouvement féministe en France avait conçu la famille comme oppressive, patriarcale, ben, ça s'était pas passé de la même manière sous l'esclavage, parce qu'il n'y avait pas eu possibilité de faire famille. Faire famille, c'était vraiment de la résistance contre justement le système esclavagiste. Et l'État français va poursuivre ses politiques dans la colonisation post-esclavagiste en continuant à intervenir dans les lois dans la famille. Qu'est-ce que la bonne famille? Qu'est-ce qu'un bon père? Qu'est-ce qu'une bonne mère, notamment au 19e, avec toute une construction de famille bourgeoise, hétéropatriarcale? Et là, par contre, pour ces gens-là, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'analyse tout cela pour montrer, si vous voulez, que de tout temps, l'État a eu une politique sur la reproduction sociale qui n'est pas et qui est différenciée racialement et de classe aussi. Donc, c'était de dire qu'il n'y a pas eu une seule politique de la reproduction par l'État. Et donc, ce qui arrive à La Réunion dans les années 70 est dans la continuité de cette histoire. Alors, c'est là, puis je vois aussi, évidemment, je regarde comment ça s'est fait à La Réunion. Donc, c'est les femmes enceintes de classe populaire, pauvres, et je précise aussi créolophones, c'est-à-dire ne parlant que le créole, ne parlant pas nécessairement le français et ne comprenant pas nécessairement le français, sont envoyées enceintes par des assistantes sociales, leur médecin, le planning familial, dans une clinique. Pour une opération, parce que je sais pas, le médecin ou l'assistant, ah mais tu sais, tu as besoin d'une opération, alors je sais pas, l'appendicite ou quelque chose comme ça. La femme va dans cette clinique et on lui dit, ah ben non, pour cette opération, il faut une anesthésie générale. Donc elle est endormie et le matin, elle se réveille, elle a été avortée. Elle n'ose pas poser de questions. Ce sont des femmes de classe pauvre, méprisées, créolophones. Certaines sont stérilisées, c'est-à-dire ligature des trompes, mais on ne leur dit pas. Donc, quand elles essayeront de nouveau d'avoir des enfants, elles ne vont pas comprendre pourquoi elles ne peuvent pas avoir des enfants. Donc, ça va faire beaucoup de traumatismes, vraiment de problèmes psychiques. Et j'observe aussi ce qui se passe dans le procès, parce que l'histoire éclate, parce que c'est un médecin catholique qui découvre une jeune femme en sang à cause d'un avortement mal fait. Et comme lui, il est catholique et contre l'avortement, il dénonce l'affaire à la police, et la police est obligée de faire une enquête. Et c'est là qu'on découvre l'énormité de l'affaire. Donc il y a un procès, et ce qui m'intéresse, c'est que le procès, à la fin, donc l'affaire fait scandale en juin 70, le dernier procès a lieu en février 1971, et aucun des médecins français ne recevra aucune punition, aucune amende, rien, pas un jour de prison, rien, absolument rien. Il y aura un infirmier réunionnais qui sera licencié, puis un médecin, mais parce qu'il est d'origine marocaine, qui sera obligé de partir de la Réunion. Mais c'est tout. Mais en fait, finalement, rien ne se passe. Rien ne se passe. 30 femmes se portent partie civile, c'est-à-dire qu'elles viennent dire oui, nous avons été avortées alors que nous n'avons pas donné notre consentement, mais ça n'y changera rien. Donc ça m'intéressait, on est en 71. Ça m'intéressait que l'impunité de ces médecins, totale, absolument totale, et de comprendre comment le même État protégeait des médecins blancs hommes qui pratiquaient donc des avortements, et en France, les envoyait en prison. Donc c'était cela que j'ai voulu montrer dans ce livre, et aussi de montrer qu'il n'y a eu aucune réparation, que ces femmes n'ont reçu aucune justice. Il n'y a pas eu de justice. L'estimation qui est donnée par des journaux locaux à l'époque sur le nombre de femmes qui ont été avortées sans consentement et aussi stérilisées pour beaucoup d'entre elles, on parle de 6 000 à 7 000 par an. Et on va parler de, si vous voulez, entre les, je veux dire, la population, entre les naissances et ce nombre, c'est un énorme, ça fait un énorme taux. C'est très nombreux, c'est des milliers de femmes. On a quelques témoignages de personnes qui travaillent dans cette clinique qui sont effrayées parce que elles voient les avortements puis les fœtus, quoi, si vous voulez, qui sont là, qui sont jetés pour être brûlés. Donc il y a, mais il y a un silence total parce qu'il y a une complicité jusqu'à un très haut niveau avec le directeur de cette clinique.
Alors, 6 000 par an sur à peu près combien d'années? Grosso modo.
Alors, d'après les journaux qui s'y intéressaient, notamment le journal anticolonial communiste, on est donc en 70 et ça recommençait 5-6 ans auparavant. Donc, je ne sais pas, 66, 67, vous voyez, 65, 65,
D'accord.
66.
Oui, peut-être 5-6 ans.
5-6 ans, et alors ce qui est aussi remarquable, c'est que comme l'avortement était interdit, était un crime, il ne pouvait pas déclarer un avortement, évidemment, il ne pouvait pas déclarer. Donc il déclarait d'autres opérations chirurgicales qui avaient exigé une anesthésie générale, et comme ces femmes étaient très pauvres, c'était l'État qui payait pour l'opération. Donc ces médecins ont empoché des millions à l'époque, de l'époque, qui sont équivalents à des centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Et cette fraude, parce que c'était une fraude, je veux dire, parce qu'ils mentaient, n'a jamais été punie non plus. Donc ils se sont aussi enrichis, ces médecins se sont enrichis, et la clinique s'est enrichie sur ce crime. Donc ce Moreau de La Réunion, pas du récit et du film, il va être très protégé par l'État, par la préfecture. Et c'est un homme de droite qui va très rapidement aussi comprendre que le domaine de la santé, parce que la santé était complètement terrible après la Deuxième Guerre, quoi. Il n'y avait pas d'hôpitaux, les gens étaient malades, enfin, je veux dire, on était dans une situation en 1950, comme si on avait été en 1880, quoi, à La Réunion. Donc il comprend que ça va être important, donc il ouvre une clinique avec d'ailleurs des médecins tout à fait de bons médecins, hein, de bons chirurgiens, mais il va comprendre que l'État français veut que les femmes réunionnaises n'aient plus d'enfants. Il va comprendre ça parce qu'il comprend, il y a toute une campagne pour les contrôles des naissances, partout, à la radio. C'est la première fois que moi je voyais des grands panneaux publicitaires sur les routes, non, moins d'enfants. Enfin, je veux dire, il y avait toute une publicité qui était faite Et il comprend que ça va être une source d'enrichissement. Bon, je pense pas que lui, il était très intéressé par la question féministe ou raciale, mais il voit que ça peut être une source d'enrichissement. Donc les médecins qui sont là et les anesthésistes, qui sont donc tous des médecins, sauf ce médecin d'origine marocaine, tous des médecins, des hommes blancs, vont accepter de faire ces avortements. Et lui, il les protège. C'est un homme qui est très très proche de la préfecture. La préfecture, c'est le représentant de l'État à La Réunion, hein, c'est le représentant de l'État français. Et donc il est très protégé, il se sent en totale légitimité, totale impunité, et pour lui, ça va rapporter des millions à sa clinique, puisque, comme je l'ai dit, ce sont des opérations, après tout, chirurgicales, qui sont déclarées, donc il faut que l'argent entre, payé par l'État, puisque ces femmes ne peuvent pas payer leurs opérations, elles sont pauvres. Donc lui, c'est une opération financière extrêmement rentable. Et les hommes, les chirurgiens qui travaillent, qui font ça, ou l'anesthésie générale, eux, ils sont tout à fait d'accord avec l'idéologie, avec le discours qui fait, oui, mais ces femmes font trop d'enfants, il faut un peu arrêter, il faut pratiquer les avortements, il y a trop d'enfants sur cette île. Et tout ça vient aussi de ce discours qui apparaît fortement après la Deuxième Guerre, que si des pays sont pauvres dans le sud global, c'est parce que les femmes font trop d'enfants. C'est-à-dire, c'est pas à cause du colonialisme, de l'impérialisme, de l'exploitation pendant des siècles, non, c'est que les femmes font trop d'enfants. Et ces hommes sont totalement convaincus de cette idée. Il y a une idée en plus, ces femmes, ces familles, elles sont noires, ou elles sont pauvres, elles savent pas s'occuper des enfants, donc vaut mieux qu'elles n'aient pas d'enfants. Donc ils partagent tout à fait cette idéologie raciste et de classe. Donc pour eux, faire ces avortements, c'est presque sauver ces femmes. C'est presque contribuer à leur émancipation. Donc on a un mélange de comment dire d'intérêts d'argent quoi, de devenir riche quoi, de faire fortune, et puis un mépris raciste pour ces femmes, de dire bon, il n'y a pas de raison qu'elles font trop d'enfants. Et ce discours que c'est les naissances qui rendent les pays pauvres ou les sociétés pauvres sera un discours vraiment répandu à travers le monde par les États-Unis et par aussi la France, la Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on voit, aux États-Unis aussi, il y a une politique raciste d'avortement et de stérilisation. Enfin, on voit dans plusieurs pays ce discours de contrôle des naissances par la stérilisation ou par l'avortement forcé va être une politique assez globale à l'époque. Donc à La Réunion, ils adoptent ce discours, ils sont tout à fait convaincus. Et ce docteur Moreau, pour lui, il n'y a pas de problème, c'est très bien. C'est comme si lui, pour lui, il se voyait participer à l'émancipation des femmes. Oui, Michel Debré a été un personnage assez important dans les années 50-60. C'est lui qui a écrit la Constitution de la Ve République en France, donc voilà, c'est un homme important. Et puis il a été Premier ministre sous De Gaulle pendant très longtemps. Mais c'est quelqu'un qui s'opposait à l'indépendance de l'Algérie, mais vraiment fortement. Il pensait que la colonisation avait été mal faite et qu'il fallait mieux la faire. Mais comme l'indépendance de l'Algérie arrivait, il fallait se débarrasser de ce Premier ministre pour pouvoir mettre fin à la guerre coloniale en Algérie. Et De Gaulle, enfin le gouvernement lui dit, mais écoute, va à l'île de la Réunion, il y a un mouvement anticoloniste très fort, un parti communiste très fort, va et écrase-les et remet l'île dans le bon chemin, dans le bon chemin colonial. Et il va arriver en 62, et il va effectivement, comme il avait été Premier ministre, il a des antennes, quoi, il a des soutiens, il connaît des ministres, il connaît des tas de choses, et il va voir La Réunion, il se dit, je vais accomplir là ce que je n'ai pas pu accomplir en Algérie. Je vais vraiment faire une colonisation. Je vais montrer qu'une colonisation est possible. Une colonisation paisible, si vous voulez, sans guerre, comme il y en a eu en Algérie. Donc c'est un grand modernisateur colonial, à la manière coloniale, c'est-à-dire construire des routes, des bâtiments, des choses comme ça. Et il va être élu député à cause de la fraude. La fraude, ça veut dire que ils font voter des morts, ils bourrent les urnes, ils frappent les gens qui sont venus voter. Enfin, je veux dire, chaque élection était finissait avec des gens blessés, parfois des morts, enfin, chaque fois.
Dans les années 60.
Oui, dans les années 60, moi je suis petite et je me rappelle tout à fait de ça. Donc c'est vraiment. Et ensuite, il fait en sorte de aussi, il veut détruire le mouvement communiste anticolonial. Donc il y a des inculpations contre Paul Vergès, qui était mon père, de comment dire, d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce qui est vraiment une inculpation très, très, très lourde, parce que ça veut dire que cette personne met en danger la sécurité de l'État. Donc, des poursuites, de la prison, des inculpations. Le journal communiste va être saisi 70 fois. Enfin, vous voyez, donc il y a une censure. Il met vraiment en place, lui, il arrive avec l'autorité de l'État. Avant, il y avait évidemment de la répression, hein. Avant Debré, il y a de la répression, ne soyons pas naïf, mais lui, il va arriver ça avec l'autorité de l'ancien Premier ministre, l'autorité de l'État. Et il va, donc lui, il est contre, c'est un adversaire, vraiment un adversaire décidé contre l'avortement en France. Il va s'opposer à la loi qui libéralise l'avortement en 75. Contre Simone Veil, qui était quand même une ministre de droite, hein, dans un gouvernement de droite sous Giscard. Il s'oppose, mais fermement. C'est quelqu'un qui dit non, il faut de la natalité, il faut que les Françaises fassent des enfants. Il défend ça en France, donc il est absolument d'accord pour que la criminalisation de l'avortement se poursuive. Et à La Réunion, il va être, les Réunionnaises font trop d'enfants, et c'est à cause de cela que l'île est pauvre. Et donc il va encourager le contrôle des naissances à La Réunion, alors qu'en France, il est un adversaire vraiment, mais vocal. Il n'est pas contre, il est vocal. Et il a de nouveau, je vous le dis, l'autorité de l'ancien Premier ministre. Donc, c'est un personnage assez important, effectivement, parce qu'il va protéger cette clinique, il va protéger le directeur de cette clinique, il va protéger les médecins, parce qu'il a cette autorité et de faire qu'effectivement, ils ne seront. Le tribunal est obligé de faire un procès parce que c'est un tel scandale que quand même il faut faire un procès. Mais le procès, il est là presque, c'est comme un théâtre, si vous voulez. Aucun d'entre eux ne sera inquiété. Donc Debré est un. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement par rapport à La Réunion, c'est qu'il montre aussi, c'est un personnage, comment dire, symptomatique d'une certaine mentalité française qui ne veut pas renoncer du tout à son ancien empire. Alors, la France a été obligée de partir de l'Indochine, de ce qu'elle appelait l'Indochine, c'est-à-dire le Vietnam, du Cameroun, de Madagascar, de l'Algérie. Non, on va garder ces derniers territoires, on va les garder et on va là faire ce qu'on n'a pas pu faire ou ce qu'on a été obligé de faire en Algérie, au Cameroun ou ailleurs. Donc, il est pas seulement par sa personne, mais aussi parce qu'il. Il est vraiment il est le membre d'une caste française qui est encore aujourd'hui, hein, qui existe encore aujourd'hui, qui est pour une colonisation républicaine. Vous voyez, c'est-à-dire la République apporte la civilisation à ses populations, apporte la modernité, apporte vraiment ce qui est bien pour ces personnes. Une colonisation sous comment dire avec une idéologie républicaine. Donc c'est pas la colonisation de sous la monarchie ou du 19e siècle, c'est en fait on va faire de vous des modernes. Vous n'êtes pas moderne, vous n'avez jamais été moderne, c'est nous qui allons vous rendre moderne. Nous allons vous faire entrer vraiment réellement dans le 20e siècle et surtout ne choisissez pas l'anticolonialisme. Regardez les pays qui sont devenus indépendants. Et à l'époque, on est dans les années 60-70, donc il y a beaucoup de difficultés encore, les pays sont encore pauvres. Et d'y regarder. Donc il y a toute une campagne qui est mise en place contre que l'indépendance, c'est mauvais, en fait. Et qu'il vaut mieux rester sous la domination de la France, parce que la France va vous apporter la modernité. Donc c'est un personnage clé, non seulement par le rôle qu'il joue dans cette affaire, mais aussi parce qu'il est vraiment symptomatique d'une politique française qui est toujours présente. Si vous voulez, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit beaucoup plus de Français venus de France dans ces territoires que au moment de la colonisation. Beaucoup plus. Au moment de la colonisation, on peut dire qu'il y avait des administrateurs, tout ça, parce qu'il y avait aussi les grands, ce qu'on appelle à la Réunion les gros blancs locaux, qui étaient propriétaires de terres, propriétaires d'usines, et qui se sont reconvertis surtout dans le commerce. Et vous en avez aussi, pareil, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Hein. Mais et vous, les Français, c'était les hauts fonctionnaires, quoi. L'administrateur colonial, enfin, vous voyez. Et après, dans les années 50-60, plusieurs choses vont jouer. D'une part, un manque total de médecins, d'enseignants, enfin, je veux dire, pour vraiment les institutions basiques de la vie sociale. Il n'y en a pas. Et au lieu de choisir une formation locale, la France va choisir d'envoyer des fonctionnaires. Donc, on commence à en voir arriver vraiment énormément dans les années 70, partout, comme enseignants, médecins, je sais pas, infirmiers, enfin, toutes les structures, quoi, dans les structures où il en manque. Et puis, dans l'administration. L'administration, c'est pratiquement que des hommes, d'ailleurs, des hommes blancs venus de France. Donc, ça, c'est vraiment, et si vous voulez, d'une part, pour un Français de France, aller là-bas, il est en France. C'est pas comme s'il allait au Cameroun ou au Tchad, hein. Et même s'il fait le fier, tout ça, il est quand même dans un autre pays. Il doit quand même tenir compte un peu de la vie autour de lui. Alors ils vivent en général en enclave, bien protégés, dans une espèce de gated community, mais quand même, il est obligé un peu de tenir compte du fait que c'est quand même pas son pays. Il arrive à La Réunion, au Martinique, au puis il est chez lui. C'est la France. Donc, il n'a pas du tout ce sentiment il n'a pas besoin d'apprendre la langue, il n'a pas besoin d'apprendre l'histoire, il n'a besoin de rien apprendre. Et partout dans ces territoires, il touche un salaire plus élevé qu'en France pour le même travail. Donc, par exemple, c'est 57% à La Réunion, c'est à peu près 47% aux Antilles. Et alors, c'est selon le pays est considéré comme dangereux ou pénible, ça change de taux. Mais en fait, vous gagnez, alors à Mayotte, c'est beaucoup plus élevé parce que pour attirer les fonctionnaires. Donc, en fait, vous êtes là-bas, vous êtes chez vous au soleil. C'est quand même un peu mieux que dans la grisaille. Vous touchez un salaire beaucoup plus élevé, ce qui va vous faire une retraite plus élevée. Vous avez quand même, vous arrivez avec un capital financier et culturel plus élevé que les gens locaux. Donc, vous pouvez avoir un statut social beaucoup plus important. Donc c'est hein, le paradis. Et aujourd'hui, on voit vraiment Réunion, mais aussi Nouvelle-Calédonie, Antilles, Guyane, une arrivée beaucoup plus importante, soit de retraités qui viennent passer leur retraite au soleil, soit de jeunes, parce que y a très peu de chômage pour eux. Ils peuvent faire des petits boulots, tout ça, etc. Puis vivre, voilà, ils vont faire du surf toute la journée, puis font des petits boulots, et c'est quand même plus facile qu'ici. Puis ils vivent à plusieurs, tout ça. Et on voit vraiment, on voit que ça. Genre moi, j'ai grandi dans une île où il y en avait, mais aujourd'hui, il y en a plein. Parce que ils peuvent acheter des maisons, ils arrivent avec plus de capital, vous voyez? Et puis on fuit la France. Et puis je vous dis, c'est quand même mieux, quoi. Non seulement on est au soleil, mais c'est quand même plus agréable. Moi, j'ai connu, par exemple, à La Réunion, des couples d'instituteurs qui pouvaient aller faire un safari au Kenya. Un couple d'instituteurs en France n'a pas les moyens d'aller faire un safari au Kenya. N'a pas. Donc c'est aussi toute une vie plus agréable. En plus, vous pouvez avoir une bonne, vous pouvez avoir un jardinier, vous pouvez avoir ce qui n'arriverait pas en France. Nécessairement. Donc c'est une vie coloniale formidable. En plus, vous vous sentez un peu supérieur aux autres. Vous venez leur apprendre quelque chose, même si vous êtes pour le multiculturalisme ou vous êtes complètement raciste, mais peu importe. Mais vous êtes quand même là. C'est vous qui faites qui ouvrez le monde. Donc on les voit prendre des positions dans le monde culturel aussi, dans le monde artistique, pas seulement dans le monde politique et du business, mais même dans partout. Les universités, ils peuvent dominer les universités. Donc c'est tout un. Alors que effectivement, il y a eu plus d'ouverture de ces pays à la France, avec des vols pratiquement tous les jours. Hein. Vous pouvez prendre, il y a au moins 5 vols par jour pour venir en France. Donc oui, il y a une recolonisation, mais différente de celle du 19e, où finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français viennent là et trouvent que, si vous voulez, vu la situation générale partout, de plus grande pauvreté, tout ça, disons, en disant, mais regardez, c'est quand même mieux si vous êtes, si vous restez français. C'est que vous avez. Et n'oublions pas aussi que ces personnes ont un passeport français, donc européen, et donc ont des facilités de circulation que Malgache n'a pas, par exemple, quand on parle de la Réunion. Donc, un sentiment d'appartenir à un grand pays qui. Il y a aussi ces deux côtés, hein. L'idée de surpopulation à La Réunion, elle est quand même assez étrange, puisque on arrive, enfin, en 1946, quand l'île n'est plus une colonie mais devient département, comme d'autres des anciennes colonies esclavagistes, c'est une population qui sort d'une très grande pauvreté, d'un très grand abandon, avec un très fort taux de mortalité infantile et de mortalité de femmes qui accouchent, maternelles. Donc, parler de surpopulation, on se demande bien de quoi on parle. Mais c'est vrai que avec les quelques progrès qui sont faits assez rapidement dans la santé, il y a des familles qui commencent à être, je veux dire, de 12 enfants qui survivent, comme on dit. Et moi-même, je me souviens encore quand j'étais petite et que j'allais avec mes parents et que ma mère demandait à une femme combien tu as eu d'enfants, la femme lui répondait 12, 7 vivants. Donc, et elle comptait tout le temps comme ça. Elle donnait le nombre d'enfants qui étaient nés et le nombre d'enfants qui avaient survécu. Donc, très petite, j'apprenais que beaucoup d'enfants mouraient très tôt, quoi, je dirais. Et même s'il y en avait 7 qui survivaient, il y en avait 3 ou 4 qui étaient morts à la naissance ou ensuite de maladies, de sous-alimentation, enfin. Donc ça, ça c'était très fort. Et en fait, il y avait, on peut dire, de grandes familles, mais la question, c'était, au lieu de faire en sorte que la situation sociale s'améliore, c'est-à-dire du travail, des hôpitaux, des écoles, des logements, enfin, santé, éducation, logement, travail, quoi, les choses de base dans une société, ça a été de dire, on ne peut pas faire ça, mais par contre, on doit. L'État dit, on peut pas faire ça tout de suite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'intervenir sur les naissances. Et c'est vrai que la Réunion a une population, mais si vous voulez, la question est vue. Quand on voit, par exemple, en France aujourd'hui, le président de la République, dernièrement, qui dit que les femmes en France ne font plus assez d'enfants et qu'il faut que les femmes recommencent à faire des enfants. Alors que dans le même temps, à La Réunion, il y en a trop. Donc on pose la question, enfin c'est ce que je pose, mais qui a le droit de donner naissance et qui n'a pas le droit de donner naissance? Quels sont les enfants désirés par la France, par l'État français, et quels sont les enfants non désirés? Parce que même en France même, c'est-à-dire même pas à La Réunion, en France même, on voit bien aussi que l'accusation des familles musulmanes, vous voyez, d'avoir trop d'enfants, de ne pas bien s'occuper des enfants, de ne pas avoir une bonne famille comme il faut, de ne pas avoir assez d'autorité. Après le meurtre de Naël, du jeune Naël l'an dernier en juin, 17 ans, il y a eu donc des émeutes. Et le gouvernement a répondu tout de suite en disant, c'est par un manque d'autorité dans ces familles et proposant qu'une loi passe pour que ce soit les familles qui soient punies. C'est-à-dire, on prend un enfant de 14-15 ans qui aurait volé une paire de baskets, bon, voilà. Eh bien, non seulement lui, il sera puni, mais la famille, les parents seront punis. C'est-à-dire, on va leur couper les allocations familiales, ou même on leur flanquera des amendes, ou on les enverra en prison. Donc, on voit que l'État continue à entrer dans l'intimité des familles quand ces familles sont des classes populaires, noires, racisées, musulmanes. Et donc, on voit encore, donc là, en 2023-2024. Et je voudrais aussi rappeler qu'en juin dernier, à Mayotte, l'île de Mayotte, qui est dans l'océan Indien, et qui est devenue aussi un départ, que la France a séparé de l'archipel des Comores, qui, en 74, devient la République islamique des Comores. Donc, on a fait un département français. Eh bien, l'an dernier, l'État dit, il y a trop d'illégaux. Il y a trop de migrants. Donc on va les expulser. Mais cette mesure, alors l'État français envoie des centaines de policiers, de gardes mobiles pour faire cela. Et dans le même temps, le directeur de l'Agence régionale de la santé, c'est des très hauts fonctionnaires hein, dans l'État, quoi. Ça fait partie, c'est pas juste un petit médecin, déclare que toutes les femmes qui vont venir à l'hôpital public de Mayotte se feront offrir la stérilisation. Donc on voit qu'en 23, offrir la stérilisation est encore quelque chose qu'un haut fonctionnaire peut dire tout à fait tranquillement à la télévision. De nouveau, pour arrêter le nombre de naissances, c'est-à-dire que la question des naissances est toujours vue comme la cause de la criminalité, de la pauvreté, mais c'est parce que ce sont ces enfants noirs ou arabes ou ça, parce qu'on le dit jamais pour les femmes blanches, on dit jamais cela. Donc cette question-là est très importante de la question de la surpopulation, parce que c'est toujours qu'est-ce qui est surpeuplé. Et dans le livre, quand je me suis intéressée au grand congrès de démographie, puisque ces grands congrès internationaux deviennent de plus en plus importants après la guerre, il y en avait avant la Deuxième Guerre, mais il y en a de plus importants, avec des travaux assez sérieux, mais aussi très rapidement cette histoire, il faut quand même regarder de près qui fait des enfants et qui fait trop d'enfants. Et sans jamais se dire, y a-t-il suffisamment de crèches? Y a-t-il suffisamment de soins prénataux, d'écoles? Parce qu'en fait, dès que les femmes, les études le montrent, dès que les femmes ont accès à plus de services de santé et à plus d'éducation, elles font automatiquement moins d'enfants. Je veux dire, c'est voilà. Bon. Donc elles ne sont pas obligées, c'est leur choix, elles le font parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir nécessairement 15 enfants, quoi. Et même quand, par exemple, il y a quelques années, le président français a déclaré que si l'Afrique était toujours pauvre, c'est parce qu'il y avait trop d'enfants. D'abord, il parlait de l'Afrique comme si c'était un pays. L'Afrique, c'est quand même un continent avec plein de pays. Et vous avez certains États où il y a une très faible taux de natalité. Il y en a d'autres plus. Donc l'Afrique n'est pas un seul endroit, vous voyez. Mais toujours cette idée que dans le sud global, les femmes font trop d'enfants et que c'est ça la cause de la pauvreté est très ancrée. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment ancré. Alors dans les années 60, mais même aujourd'hui, hein, l'histoire de ce slogan qui est l'avenir est ailleurs, c'est vraiment de dire en fait vous n'avez pas de futur ici. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas, il n'y a pas. Et à l'époque, c'était il n'y avait pas de travail parce qu'il y a aussi une grande destruction des industries locales ou même de l'artisanat local. Il y avait des pêcheurs, il y avait enfin des cordonniers, enfin il y avait tout de même des tas de petits métiers qui sont détruits hein, par la modernisation. Et par l'arrivée notamment de tas de produits de consommation, avec les grands supermarchés, tout cela. Donc l'avenir est ailleurs. Mais même aujourd'hui, ça joue, puisque vous avez parfois des jeunes qui ont des diplômes très très avancés, hein, et qui ne peuvent pas venir l'exercer en Guadeloupe ou à La Réunion. Ils sont bloqués, parce qu'il n'y a pas, d'une part, il n'y a pas de développement, donc il n'y a pas, comment dire, de possibilité d'avancer dans leur métier. Et d'une part, et très très souvent aussi, ils vont se heurter à tout ce qui est la hiérarchie qui va être blanche française. Donc, qui vont être bloqués. C'est pas eux ou elles qui vont être à la direction d'un service. Il y aura toujours, et même si elles ou ils sont à la direction de ce service, au-dessus, il y a toujours l'État, qui est l'État français. Donc, cette question de l'avenir est ailleurs demeure. Et ce qui fait que, par exemple, dans ces territoires, les familles qui ont les moyens envoient tout de suite leurs enfants faire leurs études en France. Si vous avez les moyens, vous envoyez vos enfants et vous encouragez vos enfants à ne pas revenir.
C'était un slogan.
Ça a été plutôt dit par ceux qui s'opposaient à la migration en disant la manière dont le discours du gouvernement est mis en place, c'est de vous dire l'avenir est ailleurs. C'est de vous faire comprendre que vous n'avez pas d'avenir ici, qu'il faut que vous partiez. Alors, parmi les gens qui sont partis dans les années 60, il y a eu aussi des gens qui ont transformé leur vie. Je veux dire, ce n'est pas qu'une histoire de tragique. Bon. Mais ce qui est profondément, c'était il n'y a rien à construire ici. Donc, si vous avez les moyens, partez. Et on vous aidera. Donc, pour les plus pauvres, on vous aidera à partir. Et pour les autres, bah, si vous partez, que vous, comment dire, vous passez un diplôme, vous trouvez un travail, il vaut mieux rester en dehors de l'île.
Oui, et donc il y a eu, il y a tellement de choses. Il y a eu des, par exemple, des compagnies qui sont venues à La Réunion parce que pour les usines en France, non? Qui sont venues
Alors,
recruter,
oui.
gérer ou.
Alors, quand se crée le BUMIDOM, c'est-à-dire le Bureau des migrations des Outre-mer, c'est effectivement la réponse à ce que j'ai dit, c'est-à-dire après la guerre en 47, quand le gouvernement décide qu'il n'y aura pas de développement possible, que le développement est impossible, et que les deux solutions seront la migration et le contrôle des naissances. Donc, c'est mis pleinement en œuvre dans les années 60. Donc, ce Bureau des migrations des Outre-mer, c'est un bureau de l'État. C'est un service de l'État qui va aller dans tous ces départements et qui vont encourager les jeunes à partir. Jeune, va, viens, on va te donner du travail. Alors, il y a plusieurs choses. C'est d'une part que en France, la vie des Français s'améliorait et qu'ils montaient dans la hiérarchie, si je puis dire, et qu'il fallait des gens pour travailler dans les services publics, mais dans les petites catégories, c'est-à-dire les moins payés, c'est-à-dire à l'hôpital, l'hospice, les crèches, les douanes, enfin tous ces services qui sont des services publics où vous devez être français, citoyen français. Donc comme ces personnes sont citoyennes de France, c'était possible. Donc toute une partie va venir pour travailler dans ces métiers-là, à la poste, je vous dis dans les hospices, dans les hôpitaux, mais vraiment par exemple pour les femmes, ça va être nettoyer les hôpitaux. Hein, voilà, c'est être femme de ménage. À la poste, c'est vraiment les plus bas métiers, quoi. Donc, mais il fallait, parce que les Français, ça montait dans la hiérarchie. Et aussi, il y a eu besoin pour les usines. Alors beaucoup, les usines de voitures, pas tellement les mines, par exemple. C'est plutôt les mines, il y a eu plutôt des Marocains, des Algériens, des Polonais, des Italiens. Mais pour les usines, oui, il y a eu des Simca, Renault ont recruté des jeunes hommes. Les jeunes femmes, je dis jeunes parce que c'était vraiment, ils visaient les jeunes, le BIMIDOM visait les jeunes. Les jeunes femmes, ça sera ou pour ces travaux dans les crèches, les hospices, ou aussi pour être domestiques. Parce qu'il y a toute une bourgeoisie française qui s'enrichit et qui veut avoir des domestiques. Et donc des femmes. Il y avait un endroit pas loin de Paris, à Crouy-sur-Hourcq, où elles étaient entraînées, enfin on les éduquait, si vous voulez, s'il y avait à devenir domestiques. C'est-à-dire comment on sert à table, comment on dit Madame est servie, comment voilà. Et donc ces jeunes filles apprenaient à devenir des domestiques, et ensuite les familles bourgeoises venaient et en choisissaient une ou une autre. Donc on a le BUMIDOM, on a au même moment aussi donc les avortements forcés à La Réunion, et on a aussi à La Réunion ce qu'on appellera les enfants de la Creuse, où 2500 enfants, mais certains bébés, seront arrachés à leur famille pour être envoyés en France et placés dans des familles, certaines qui n'avaient jamais vu un petit noir de leur vie, dans des campagnes vraiment isolées, et où ça a été des drames. De très grands drames. Donc on voit l'État, si vous voulez, vraiment dire, ben, c'est nous qui allons, on va régler cette question de cette manière. On va arracher les enfants à leur famille pour les éduquer en France, parce que ces familles-là ne savent pas les éduquer. Et en fait, ce sera des personnes qui ne recevront, très peu d'entre elles auront une éducation, et il y aura énormément de drames. Il y a le BUMIDOM, ça c'est la migration organisée avec les jetés ici. Et puis, il y a à La Réunion les avortements forcés. Donc, tout ça, c'est une même politique, si vous voulez.
Oui, c'était il y a vraiment pas très longtemps, hein, c'est ça.
Non, il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est
Les
vrai.
enfants de la Creuse, c'est passé à peut-être des gens qui ont 70 ans aujourd'hui, ou qui ont, vous voyez, beaucoup sont toujours vivants.
Oui, c'est ça. Comment, bon, c'est une histoire qui est pas mal sortie dans la presse, mais pour nous rappeler un petit peu, c'est vrai que j'avais pas mis ça parce que je trouvais ça. Mais On disait aux mères que leur enfant...
Oui, les assistantes sociales venaient et disaient, ben écoute, on va prendre ton enfant, et comme ça, il va devenir médecin ou professeur. Et alors, on leur mentait en leur disant que, mais vous pourrez les voir, ils viendront en vacances. Il y a des parents qui se sont opposés, mais on leur a pris leurs enfants de force. Et puis, il y en a plein qui ne comprenaient pas, parce que, de nouveau, c'est des familles créolophones à qui on parle. On leur dit, mais signe ce papier, c'est bien. Les gens ne savaient ni lire ni écrire, signer les papiers. Et après, ne revoyaient plus leurs enfants. Mais ne revoyaient plus. Ils n'avaient pas de nouvelles. On leur donnait pas de nouvelles. Donc, l'enfant avait disparu. Et très longtemps après, très très longtemps après, certains devenus adultes veulent reprendre contact avec leur famille. C'est toute une recherche parce qu'il n'y a rien, ils ne savent pas. Et puis tout ça a été caché, les dossiers, on ne sait plus où ils sont à un moment donné. Donc ils vont retrouver leur famille et ça sera de nouveau aussi des drames parce que d'une part, les parents pensaient que certains étaient morts, avaient disparu, quoi. Et les enfants pensaient que les parents les avaient abandonnés volontairement. Donc il y a eu vraiment beaucoup de drames familiaux et beaucoup n'ont jamais été résolus. Et de la même manière que pour les avortements forcés, il n'y a jamais eu de réparation. Il n'y a jamais eu de réparation.
Jamais de préparation. Donc le Bumidome était aussi dans cette...
Oui, c'est toute cette organisation à ce moment-là, si vous voulez. Alors, on peut dire répression contre les mouvements politiques anticoloniaux, répression, censure, répression des grèves. Il y avait beaucoup de grèves, puisque les gens voyaient le monde industriel s'effondrer. Bumidome, avortement forcé, enfants de la Creuse, tout ça, si vous voulez, c'est une même politique des années 60 jusqu'aux années 70, qui vraiment est une politique de l'État qui vise plusieurs aspects de la vie pour arrêter des mouvements, si vous voulez. Par exemple, pour le Bumidome, c'était aussi une très grande peur que cette jeunesse, puisque ça visait la jeunesse, cette jeunesse devienne révolutionnaire. Donc, en Martinique-Guadeloupe, la France avait peur de l'exemple de Cuba, révolution cubaine en 1959, avait très peur. Et dans l'océan Indien, peur aussi des mouvements en Inde, en Mozambique. Donc ils avaient très très peur de tout cela. Et il fallait reprendre la main, donc faire partir les jeunes, parce que les jeunes, il y avait beaucoup beaucoup de révoltes, énormément de révoltes, qui menaçaient l'État français. Donc il fallait, en vidant ces territoires de leur jeunesse, ce qui fait que par exemple aujourd'hui la Martinique et la Guadeloupe sont les départements français où vous avez le plus grand nombre de personnes âgées. Les personnes âgées sont la majorité. Il y a de moins en moins de jeunes.
D'accord.
Donc ça a eu des conséquences aussi jusqu'à aujourd'hui. La Réunion un peu moins parce que même s'il y a eu beaucoup de Bumidome, c'est plutôt le contrôle de naissance qui a été fortement exercé là et la répression. La répression a été terrible. Dans les colonies françaises, il y a eu des communismes, hein, que ce soit Vietnam, Algérie, Sénégal, ailleurs. À l'île de la Réunion même, Raymond Vergès, le père de mon père, qui a vécu pendant très longtemps hors de la Réunion, qui était réunionnais, revient à la Réunion et fonde la Fédération communiste de l'océan Indien, avec d'autres. Donc c'est le premier temps de discussion du communisme, mais il y a des petits cercles. Et va fonder un journal qui s'appelle Témoignages, La Voix des sans-voix, et qui prend position assez rapidement contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire, c'est un journal qui très rapidement se veut internationaliste, c'est-à-dire d'apporter aux Réunionnais pas seulement les nouvelles locales ou de la France, mais les nouvelles du monde, et notamment du monde à côté, autour. Donc, par exemple, quand il y a la grande insurrection à Madagascar en 1947, contre le colonialisme français, ce journal va beaucoup en parler et va prendre la défense des Malgaches. Donc on a, si vous voulez, assez rapidement des discussions. On voit un formidable mouvement. J'ai retrouvé par exemple des photos où vous voyez des gens marcher, des centaines de gens qui marchent plusieurs kilomètres pour aller à un meeting politique, parce qu'il n'y avait pas de bus à l'époque. On est dans les années 40, 42, 43. Absolument incroyable. Donc une vraie volonté de sortir du statut colonial qu'accompagne à ce moment-là ce mouvement communiste, mais qui n'est pas un parti encore, hein, qui s'appelle Fédération communiste dans le sens indien. Alors, et puis donc il y a des gens de Lille qui, il y a des cercles d'études. Et en 59, donc il y a le statut de département en 46, et dès 59, l'analyse est faite par toute une jeune génération de communistes, de jeunes communistes, beaucoup d'entre eux ont combattu le nazisme. Ils se sont portés volontaires pour aller combattre le nazisme. Donc, qui ont été dans les forces françaises libres ou dans les armées. Et participe à toute cette génération qui, après-guerre, dit, mais si nous avons combattu le nazisme et le fascisme, qui sont des idéologies raciales, eh bien, si l'Occident a combattu ces idéologies, elle doit, l'Occident, la France, doit être contre le colonialisme, qui est une idéologie raciste. Donc on a toute une génération, beaucoup qui se retrouvent d'ailleurs à Paris après la guerre, et qui des Marocains qui rencontrent les Algériens, qui rencontrent les Malgaches, qui rencontrent les Réunionnais, qui rencontrent des Antillais. Enfin, je veux dire, tous ces jeunes, cette jeune génération, ils sont jeunes, c'est des jeunes hommes, discutent beaucoup et partagent cela. Et voit assez rapidement, comment dire, l'échec de la départementalisation, de ce qu'on appelle la départementalisation. Comprennent que l'État français ne voudra pas l'égalité. Parce que la départementalisation, c'était l'application des lois sociales d'égalité en France, c'est-à-dire le salaire minimum, les allocations familiales, en fait, toutes ces lois qui devaient donc être égales, les mêmes, dans ces territoires. Et rapidement, ces mouvements s'aperçoivent que l'État français ne fera pas ça. D'ailleurs, par exemple, à La Réunion, l'égalité des droits sociaux, salaire minimum, ne sera acquis qu'à la fin des années 90. Donc, vous voyez, entre 45 et 90, ça fait quand même donc tout cela, tout ce temps-là, pour que l'État français finisse par dire, bon, le salaire minimum peut être le même. Et encore, enfin bref, ça c'est autre chose. Bref, dans les années 50, beaucoup donc de ces jeunes qui sont revenus dans leur pays, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, disent ça ne suffit plus, il faut créer de nouveaux mouvements. Et donc ça sera des partis communistes en Martinique, Guadeloupe et Réunion. Guyane, ça sera plus tard, c'est pas le même chemin. Et ces partis communistes vont proposer comme programme surtout une autonomie totale. Ils appellent ça une autonomie démocratique et populaire. Le programme, c'est nous devons décider nous-mêmes de ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire de nos choix économiques, de nos choix sociaux, de nos choix culturels. C'est-à-dire nous voulons que nos langues soient parlées, la langue créole ou d'autres langues, pas seulement le français. Nous voulons une école qui soit ouverte à l'histoire de notre région et à notre histoire, un art, une culture qui se développe ici. En économie, nous voulons faire nos choix. Ça ne va pas être la canne nécessairement, diversification totale, diversification de l'industrie, nos choix politiques. La seule chose dans ce programme qui a été laissée à la France, à l'État français, c'était l'armée. La France continuait à avoir le monopole. Il n'y aurait pas eu d'armée réunionnaise. Et une partie des affaires étrangères, c'est-à-dire la Réunion proposait de participer aux décisions pour la région océan-indienne, participer avec l'État, puisque ils sont dans cette. Mais par exemple, je sais pas moi, d'autres décisions d'affaires étrangères seraient prises par l'État français. Donc le Parti communiste se crée en 59 et a une énorme audience à La Réunion, une énorme audience auprès des lavandières, des ouvriers agricoles, des dockers, des instituteurs, enfin, toute une série de classes sociales et d'origine. Des musulmans, des hindous, des catholiques, enfin, je veux dire, des chinois. Et va faire très peur à l'État français. Ils gagnent aux élections, ils font plus de 30%. Ils envoient déjà dès les années 56, ils envoient des députés, deux députés sur trois à l'Assemblée nationale. Donc l'État a très peur. Là, je parle pour la Réunion, on pourrait parler des autres territoires, a très peur, va faire démissionner ses députés sur ces histoires et va instituer vraiment la fraude et la répression. Quand je dis la répression, c'est-à-dire les gens sont frappés, les gens perdent leur travail. Il y a vraiment une répression directe sur les communistes. Avec une énorme propagande anticommuniste, et contre l'autonomie. C'est-à-dire le mot autonomie devient interdit. Donc par exemple, il y a un moment, je me souviens quand j'avais fait des recherches sur autre chose, des jeunes qui avaient écrit autonomie sur un mur sont arrêtés par la police et jugés pour avoir écrit autonomie sur un mur. Donc même le terme d'autonomie est poursuivi. L'autonomie est associée, en fait ce qu'ils veulent c'est le séparatisme, donc autonomie ça devient séparatisme, et donc ça veut dire vous allez être entraîné dans l'indépendance, la pauvreté. Il y a tout, ça c'est dans un livre mais que j'ai écrit en anglais où je parle de toute cette campagne qui était dans les journaux, à la radio, les prêtres à la messe du dimanche disaient aujourd'hui c'est un jour de vote, ne votez pas communiste, sinon je ne baptiserai pas vos enfants, je viendrai pas faire la messe pour les morts, tout ça. Or c'est une population très catholique donc ça faisait tout un effet. Enfin, il y a vraiment une répression très large, sociale, culturelle et aussi directe, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés en prison, frappés, tués. Donc, un climat assez de terreur qui s'installe pour affaiblir. Mais quand même, le Parti communiste réunionnais va rester très fort jusque dans les années 80, fin des années 80, 90 même encore. Même si vous voulez, il est toujours là dans les années 2000. Maintenant, il est totalement affaibli. Enfin, il va dominer la vie politique. Donc, il va faire très peur et il y aura énormément de répression. Et c'est un parti communiste qui fait partie du mouvement communiste international, mais qui ne va vouloir suivre ni Moscou ni Pékin dans les discours, dans les luttes Moscou versus Pékin, ou qui va pas non plus surtout refuser l'allégeance au Parti communiste français. Le Parti communiste français avait été accusé par Aimé Césaire en 1956 d'être tout à fait, comment dire, colonial. C'est-à-dire de ne pas respecter les communistes qui n'étaient pas français, qui n'étaient pas blancs, si je veux dire. Donc, dans une lettre en 1956, quand Aimé Césaire va démissionner du Parti communiste français, puisqu'il était membre du Parti communiste français, il va écrire Vous voulez bien la fraternité, mais tant que vous êtes le grand frère. Donc non, c'est pas ça la fraternité. Et puis il va dire, mais moi je suis un homme noir, vous pouvez pas m'enlever ça. Moi c'est pas moi qui ai décidé d'aller en Martinique, mais mes ancêtres et que je devienne noir. C'est vous qui avez fait la traite et que je suis arrivé. Donc il faut tenir compte de ça. Or vous voulez l'effacer. Et il dit que l'universalisme du communisme français est un universalisme étroit. Et que lui, il veut un universalisme qui, vraiment, soit ouvert. Donc, cette lettre de démission est extrêmement importante parce qu'elle montre, évidemment, la divergence avec un parti communiste qui était paternaliste et colonial, qui ne s'était pas débarrassé. Et avec la même chose avec le PCR qui voudra toujours être autonome du Parti communiste français. Donc, on ne va pas vous suivre. Et dans les années 70-80, tous les partis ou les mouvements anticoloniaux de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, vont se retrouver pour avoir un programme commun qu'ils présenteront aux candidats à la présidence en France de gauche en disant on votera pour vous si vous acceptez notre programme. Donc un rapport de force, si vous voulez, donc vraiment d'être autonome. Donc le Parti communiste réunionnais a été très puissant culturellement aussi parce qu'ils ont beaucoup poussé la culture comme beaucoup de partis communistes avec des revues, tout un mouvement culturel, un mouvement pour la langue créole, pour la musique contre, mais qui est affaibli aujourd'hui, qui est très affaibli, mais qui aura beaucoup pesé et qui aura donc qui connaîtra une très grande répression, vraiment une grande répression parce qu'il y a vraiment l'État français comprend qu'il faut affaiblir ce parti. En fait, il y a une union des femmes de La Réunion qui est créée même avant le Parti communiste, entre les deux guerres, qui était proche de la Fédération communiste des Nations indiennes, mais le Parti communiste n'était pas encore créé. Et cette union des femmes, c'est un féminisme qu'on dit aujourd'hui marxiste et social, c'est-à-dire vraiment s'intéressant surtout aux femmes pauvres, aux femmes des classes populaires. Donc plus centré sur la question des droits sociaux et des droits des femmes des classes populaires que sur la question de la domination masculine, comme j'ai expliqué auparavant. Donc cette union des femmes va être évidemment ensuite très proche du Parti communiste réunionnais, comme d'ailleurs l'union des femmes de Guadeloupe ou l'union des femmes de Martinique qui vont être proches des partis communistes de Martinique et de Guadeloupe, et qui va surtout s'intéresser aux femmes, aux ouvrières agricoles, aux lavandières, aux femmes domestiques, enfin vraiment c'est celles qui sont les plus exploitées, qui sont aussi les plus visées par du racisme à La Réunion. Que on peut dire sur une classe moyenne cherchant à être plus libre. Donc les mots d'ordre vont être vraiment autour de des allocations familiales, des de l'accès à la crèche, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, contre la violence coloniale aussi, c'est-à-dire pas seulement contre la violence des hommes, mais la violence coloniale. Donc oui, un féminisme qui aujourd'hui, par exemple, dans le monde académique, on va dire un féminisme matérialiste social, c'est-à-dire et pas voilà. Donc oui, c'est qui sera très important, un mouvement très important à La Réunion. Oui. J'ai assis, je vous dis, ma mère faisait partie de cette organisation, donc elle m'emmenait dans des réunions et je voyais il y avait vraiment des grandes manifestations de femmes, oui. Et qui était pour l'autonomie aussi, qui défendait l'autonomie, c'est-à-dire, elle se disait, c'était une organisation qui se disait anticoloniale. Donc pas seulement féministe au sens de l'égalité avec les hommes, mais égalité dans l'anticolonialisme, c'est-à-dire l'État français dehors.
Et ces quatre censures, vous voulez...
Ah oui, les quatre censures. Donc, par exemple, je vous le dis, alors le journal du PCR qui s'appelait Témoignages était très souvent saisi, mais très souvent saisi. C'est-à-dire aussi à la fois, évidemment, pour que les informations ne sortent pas, mais aussi parce que ça affaiblit économiquement. Économiquement, ça affaiblit un journal, que le journal puisse pas se vendre. Beaucoup de censures. Il y avait de la censure dans le cinéma, par exemple. À La Réunion, vous aviez un comité qui choisissait les films qu'on allait voir. Et ce comité, à la tête de ce comité, il y avait l'évêque de Lille. Donc les choix, c'est moi, toute mon adolescence, j'ai vu tous les péplums du monde, j'ai vu tous les films catholiques, les Dix Commandements, enfin tout ce qui, voilà tout, Covadis, tout ça, je connaissais tout. Voilà, je pouvais dire quoi qu'est-ce. Parce que c'était ça qu'on voyait, ou des films de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était que de la propagande occidentale, vous voyez, catholique ou occidentale, sur les États-Unis. On ne voyait pas la Nouvelle Vague, on ne voyait jamais un film soviétique, jamais un film cubain, rien, rien, rien. C'était. Et donc ce comité, au point, alors pour vous raconter, quand il y a eu le film de Costa-Gavras qui s'appelait Z, qui est donc sur l'assassinat de Lambrakis, du député grec Lambrakis. Un film, Costa-Gavras, un film qui était montré en France, moi je veux dire, c'était un film de grand public, comme on dit. Il arrive à La Réunion, il est interdit. Parce que, alors, la commission dit non, c'est pas possible, c'est un film qu'on peut pas montrer, mais sans explication, vous voyez. Alors là, il y a protestation, parce qu'on est quand même déjà dans les années 70, quoi, je veux dire. Interdire Z de Costa-Gavras. Alors finalement, il pourra être diffusé, mais seulement dans deux salles, et il sera interdit au moins de je sais plus quel âge, si vous voulez, parce que ce sera un film. Donc il y avait aussi ce genre de censure sur les spectacles, sur les expositions. Il n'y avait aucune exposition d'artistes du peuple. Le Maloya, qui est une musique qui a été forgée dans les plantations. Par les esclavisés malgaches, et puis après, avec l'apport d'engagés indiens, n'était jamais performé en public. Jamais, on ne l'entendait pas à la radio, jusque dans les années 80. Mais c'était parce que c'était une musique de noir, tout ça, c'est une musique de sauvage. Le créole était interdit à l'école. Vous ne pouviez pas parler créole.
Spécialité française.
Donc, c'était aussi des censures qui étaient politiques. Par exemple, les gens du Parti communiste n'étaient jamais invités à la radio ou à la télévision, mais jamais, jamais. Donc on ne savait même pas ce qu'ils pensaient, quoi que ce soit, comme si leurs paroles étaient trop dangereuses, mais on a jusque dans les années 80. Hein, donc censure politique se traduisait par des amendes pour affaiblir financièrement les mouvements, des arrestations, des emprisonnements. Mon père, Paul Vergès, il a été dans la clandestinité pendant 2 ans pour échapper à la justice française. Y a, bon, donc prison, censure, tout ça. Et puis, au niveau culturel, la langue, la musique, les rites afro-malgaches, qui sont donc des rites, les rites hindous, qui vraiment se faisaient, c'était les classes populaires. Donc, par exemple, à un moment donné, obligation d'avoir le drapeau français. Quand il y avait le rite, alors qu'est-ce que faisait le drapeau français là? Enfin, si vous voulez, donc plusieurs choses pour entraver complètement un développement local, culturel, linguistique, artistique, jusque dans les années 2010, je dirais, ou bah, il n'y a pas longtemps, quoi, où là, tout d'un coup, l'État français se dit, ah bah tiens, quand même, on va tourner les choses et on va faire du multiculturalisme. Donc, par exemple, la Réunion, ça devient l'île de tous les métissages. Donc, on avait des tas de publicités, même sur les bus à Paris, de tourisme, l'île de tous les métissages. Et alors là, tout d'un coup, il y a un renversement, c'est-à-dire que le fait qu'à la Réunion, vous pouvez voir une église catholique, un temple hindou, une mosquée, un temple bouddhiste, devient une publicité pour montrer comment la France est très tolérante et que voilà, finalement, la Réunion, c'est le meilleur de la France. Alors que tout ça avait été possible en opposition à l'État français. Mais là, c'est retourné. Et donc, depuis jouer, je dirais depuis les années 2010, ça commence un peu dans les années 2000, mais là, c'est devenu au contraire un renversement. Et ce seraient les Français qui auraient imaginez cela et mis ça en place, quoi. C'est grâce à eux qu'il y a tout ce multiculturalisme à La Réunion. Ce qui a été important d'ailleurs pour toutes les femmes du Sud global, mais aussi les féministes noires aux États-Unis, c'était très vite par rapport à un féminisme occidental qui voyait l'oppression des femmes essentiellement comme étant le produit de la domination masculine. Et les femmes, ces femmes, et donc à La Réunion, mais aussi ailleurs, disaient, mais il n'y a pas que la domination masculine, puisqu'il y a eu le colonialisme et l'impérialisme, donc c'est pas simplement les questions des hommes, parce que nous avons peut-être évidemment la domination masculine locale, mais nous avons aussi la domination patriarcale de l'État colonial. Donc il y a tout des tas de travaux qui montrent que c'est le colonialisme qui va criminaliser, par exemple, l'homosexualité. La Grande-Bretagne va criminaliser l'homosexualité dans beaucoup de pays d'Afrique ou d'Asie, en fait, dans ses colonies. Et puis aussi, comme je l'ai expliqué un peu auparavant, c'est-à-dire va se permettre d'entrer dans l'intimité des familles. Non, ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les familles, c'est le papa, la maman et les enfants. Les grandes familles, tout ça ne marche pas. Or, dans beaucoup de ces sociétés, ou parce que sous l'esclavage, mais aussi dans la colonisation, ou même avant la colonisation, la conception de la famille n'est pas la famille monoparentale, le papa, la maman et les enfants, comme j'ai dit. Ça peut être une famille étendue, c'est-à-dire on a les enfants de la sœur sont adoptés. Enfin, je veux dire, il y a l'idée que la famille, c'est pas que par le lien biologique. D'autre part, il y a des notions de genre qui n'étaient pas nécessairement celles de l'Occident. C'est-à-dire, il y a deux genres, masculin, féminin, complémentaires de l'Occident. Il y a des sociétés, notamment en Afrique, mais même aussi dans les Amériques, qui pensent que finalement, on peut passer d'un genre à l'autre. Un homme peut devenir, peut, pas une femme, mais prendre adopter le genre féminin, ou un troisième genre, justement. Et ça, chez les populations autochtones des Amériques, bon, c'était tout à fait conçu. Il y a aussi dans des sociétés africaines le fait qu'arrivé à un certain âge, vous n'êtes plus vraiment ni homme ni femme, vous êtes d'un certain âge, vous n'êtes pas une vieille personne, mais vous avez moins cette association à un genre défini. Donc tout cela, si vous voulez, est très important et a été beaucoup effacé par le colonialisme, qui a importé une conception de ce que c'est qu'être un homme, une femme, une famille, les enfants, l'enfance, tout cela dans des sociétés où il y avait des conceptions très très différentes. Donc cette Cette méthode d'observer, d'analyser la situation des femmes du Sud, dont celle à La Réunion, en tenant compte du genre, enfin des genres, de la race et de la classe, a été extrêmement importante. Parce que, de nouveau, si on veut reprendre cet exemple de l'avortement, être une femme française, à l'époque, vous ne pouviez pas avorter. Vous étiez une criminelle. Mais à La Réunion, on vous avortait. C'était pas vous qui choisissiez en tant que femme. C'est qu'on, un médecin blanc choisissait, enfin, vous imposait l'avortement. Évidemment, de classe populaire, noire ou racisée. Donc, si, on ne peut pas ne pas tenir compte de tout cela quand on analyse la situation des femmes. Et très souvent, je fais remarquer que il est vrai qu'en France, par exemple, les femmes obtiennent le droit de vote très tard, en 45, le droit d'aller à l'université assez tardivement aussi, au début du 20e, et puis le droit ensuite d'être médecin ou avocat. Mais qu'elles avaient un droit dès le 15e siècle, c'était celui de posséder des êtres humains. Elles peuvent être à la tête de plantation, elles peuvent avoir acheté des êtres humains, elles peuvent les vendre, je veux dire, elles ont ce droit-là qui leur est donné parce qu'elles sont des femmes blanches, pas parce qu'elles sont. C'est pas le genre, c'est leur couleur qui leur donne ça. Et vous avez des exemples où ces femmes qui possèdent des esclavisés savent très bien que c'est un capital. Donc vous avez des exemples où, par exemple, quand elles se marient, dans le contrat de mariage, elles refusent que les esclavisés deviennent la propriété de leur mari parce qu'elles comprennent que c'est leur capital. Vous voyez, comme si elles possèdent leur capital, quoi, comme si elles c'est à elles. Donc, si un jour elles veulent les vendre ou les louer, l'argent leur reviendra et n'ira pas au mari. Donc, par exemple, aussi, si elles deviennent veuves ou si le mari perd tout son argent au jeu, elle a ce capital. Et ces femmes le comprennent. Elles sont pas victimes, vous voyez, elles sont pas innocentes. Elles comprennent tout à fait. Elles participent, elles vont dans les marchés d'esclaves, donc elles savent négocier. Voilà, non, pas moins cher, plus cher. Elles savent qu'elles peuvent les louer, notamment par exemple, il y avait des femmes, des esclavisées qui étaient de très bonnes cuisinières, et ben les propriétaires les louaient à d'autres esclavagistes pour des moments, je sais pas, de grandes fêtes ou des mariages, ou une qui était une très bonne couturière, ben elle était louée. Donc ces femmes comprennent. Donc je voulais montrer que si on racontait l'histoire des droits, il fallait réintroduire dans l'histoire de la lutte pour des droits civils, ce droit-là. Et ça a compliqué l'histoire des droits à l'occidental, parce que ce droit-là a donné à des femmes vraiment un statut et un capital. Un des plus grands esclavagistes à La Réunion est une esclavagiste, est une femme qui est à la tête d'une très grande plantation et qui va posséder un très grand nombre d'esclavisés. Et elle s'appelait Madame des Bassins. Et c'était une femme à la tête de. Alors que vous avez encore à l'époque très peu de femmes, par exemple à la tête d'industrie. Vous voyez en Europe. Voilà, c'est le mari ou le fils. C'est encore assez rare qu'une femme soit à la tête d'une usine, d'une grande usine ou d'une grande industrie. Donc c'est ça aussi, si vous voulez, que l'esclavage a vraiment transformé, pas seulement l'esclavage, mais l'esclavage a apporté quelque chose dans le statut des femmes blanches qui était différent, vous voyez, des autres femmes, qui elles, les femmes esclavisées, elles n'avaient pas ce droit-là. Hein. Donc c'est ça, de réintroduire ça, de montrer ça, et puis aussi l'invention de la blancheur. Je veux dire, les historiennes et historiens qui se sont intéressés à comment on devient blanc montre que tout le monde n'a pas toujours été blanc. Il y a une invention il y a une invention et des travaux récents montrent que ça vient surtout, comment dire, cette théorie, si on peut dire, ce discours, va naître notamment en Espagne avec la pureté de sang, les pienso de sangre, voilà, le sang pur, le sang propre, et que ça va donner cette histoire du sang, que le sang, il y a le sang pur et puis le sang impur, et puis l'expulsion des Arabes, l'expulsion des Juifs, tout ça, va être la source d'une pensée raciale que les Anglais vont lire de très près, qu'ils vont adopter. Donc il y a toute une construction de qu'est-ce que c'est qu'être blanc qui se fait à ce moment-là. Et plusieurs d'entre nous, féministes antiracistes, ont dit aux féministes blanches, mais vous devez comprendre comment vous êtes devenue blanche. Je veux dire, blanc, ça a pas, c'est pas une question de couleur de peau. Qu'est-ce que ça a été cette invention de la blanchité? Et qu'est-ce que ça vous a donné comme statut, comme possibilité que d'autres n'ont pas eu? Donc il y a on n'est pas en train de vous dire, oh, c'est terrible, vous êtes blanche, c'est horrible, tout ça. Non, on est en train de vous dire, qu'est-ce qui a autorisé la construction de la blanchité? Qu'est-ce qui a fait que être blanc est devenu un statut à un moment donné? Très important. C'était pas seulement la classe, c'était être blanc. Ce qui fait que, par exemple, sous l'esclavage ou le colonialisme, vous pouvez avoir des pauvres, enfin des blancs pauvres dans leur pays, en Europe, et qui deviennent des rois, enfin des rois des riches, à la colonie. Parce que la classe ne va plus compter de la même manière. Ils peuvent arriver, amasser des fortunes et devenir puissants. Donc la colonie offre, même à des pauvres, et vous avez quelques récits de cela, quelques exemples, offre même à des pauvres blancs la possibilité qu'ils n'auraient pas eue en Europe, dans leur propre pays. Donc c'est tout ça. Et des femmes aussi, des femmes blanches, auront des possibilités dans les colonies qu'elles n'auraient pas eues en Europe, dans leur pays, de monter des affaires, en fait, une plus grande liberté, parce que être blanche leur donne un statut social très rapidement. Et à la colonie, les personnes blanches qui franchissent la barrière de couleur, qui se mettent dans des quartiers africains ou asiatiques ou sud-américains, sont très punies. Parce que justement, il faut garder la séparation. Et vous avez des récits tout à fait, enfin des récits, des autobiographies d'une femme blanche qui, elle épouse un arabe ou elle épouse un noir, enfin je veux dire, ou vice-versa par amour. Et comment dire, la société coloniale blanche va les mettre de côté. Ça ne se fait pas. Donc, cette proposition de regarder ce qu'on appelle l'intersection entre différents, entre races, classes, genre, et j'ajouterai aussi religion, parce qu'en Europe aujourd'hui avec l'islamophobie, on voit que c'est très important, est importante pour comprendre que la situation des femmes, elle n'est pas universelle, c'est pas partout pareil. C'est parce que vous êtes une femme que c'est partout pareil. Et ensuite, vous pouvez être une femme et être absolument du côté des forces coloniales ou fascistes ou d'extrême droite. Déjà, pour commencer, le féminisme décolonial, pour moi, partait d'une question que je trouvais avait disparu totalement des féminismes, c'est-à-dire de partir des femmes qui sont fabriquées comme les plus vulnérabilisées, les plus précarisées. Et donc la question, qui nettoie? Hein, qui nettoie le monde? C'est-à-dire de même dire à des féministes, mais si on fait une réunion, là, en ce moment, c'est grâce à des femmes qui ont nettoyé cet amphithéâtre ce matin. Donc, et qui sont sous-payés, sous-considérés, tout ça. Donc nous, on est là à faire notre réunion féministe et à avoir des idées formidables et très radicales, mais c'est possible parce que ces femmes ont nettoyé. Donc c'était un peu de repartir, si vous voulez, à qu'est-ce qui tient la société, et donc de faire une analyse féministe à partir de ça, à partir de cette fondation. Et la fondation, pour moi, c'est sans le travail de ces femmes, aucune société ne fonctionnerait. Mais quand je dis, donc c'est pas le travail domestique à la maison, c'est le travail domestique dans la société. Ni les banques, les assurances, les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, rien n'ouvrirait. Après 3 jours, vous n'ouvrez pas. Il y a de la saleté, vous ne voulez pas. Ça n'ouvre pas. Mais ce travail est totalement invisible, mais totalement, alors que toute la société repose dessus. Il est invisible, il est sous-payé, il est en général, mais c'est pas en général, c'est vraiment majoritairement, selon les chiffres même de l'Organisation internationale du travail, repose sur des femmes migrantes, avec papier ou sans papier, mais des femmes migrantes, venues autant d'Amérique du Sud que du continent africain, que des Philippines, que d'Asie, enfin de partout. Et ce travail, donc, est souvent très fatigant aussi, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que les femmes sont très très fatiguées, et certaines me disaient, mais qu'à 50 ans, elles pouvaient même plus soulever des poids, même leurs petits-enfants, parce que tout ce qui est les articulations sont totalement abîmé par le travail répétitif que vous faites et qui est très lourd.
Dans les hôtels, par
Dans
exemple.
les hôtels, tout, dans les bureaux aussi, il faut soulever les choses, tout ça. Et vous voyez, pousser les tables, pousser les chaises, enfin pour nettoyer, quoi, pour, voilà. Et les genoux, tout ça, très souvent, par exemple, elles ont, à 50 ans, eu déjà deux opérations aux genoux, au coude, au poignet. Encore, même quand elles sont jeunes, c'est souvent en majorité des femmes de 50 ans, mais il y en a aussi des femmes jeunes, et qui me disaient que, je sais pas moi, au milieu de la journée, elles avaient déjà pris cinq pilules antidouleurs, parce que elles ont mal partout. Donc ça m'intéressait aussi que c'était complètement ignoré, que c'est un travail très épuisant. Mais aussi, l'épuisement de ce travail est invisible. On croit qu'on passe le balai, bon, c'est quand même bon, c'est rien de passer le balai, de passer le plumeau, quoi, je veux dire, de quoi. Mais elles vous disent que vraiment, c'est plus possible. Et vraiment, ces témoignages, je les ai tout le temps. Récemment encore, une femme me disait, oui, ma mère a été femme de ménage, elle a 55 ans, elle ne peut pas soulever son petit-fils dans ses bras. Il faut le mettre dans ses bras. Elle peut pas, elle a plus de force. Donc il y avait ce côté-là. Le fait quand elles travaillent, elles utilisent énormément de produits chimiques qui sont mauvais pour la santé. Celles qui travaillent dans les hôtels me disaient à quel point les chambres d'hôtel sont parfois dans un état mais dégoûtant. Donc ça aussi, ça m'intéressait. Mais vous faites pas ça chez vous. Vous faites pas ça chez vous. Donc pourquoi vous faites ça? Sinon parce que vous pensez qu'il y a des femmes qui vont nettoyer après vous. Donc je partais de ça en disant qu'un féminisme, donc que j'appelle décolonial, ce serait un féministe qui part de ces situations et qui dise que ben voilà, la libération des femmes, quand ces femmes-là seront libres, ben toutes les femmes seront libres. Donc, quand la situation de ces femmes aura changé, ben toutes, parce que elles sont, comment dire, le pilier sur lequel s'appuie une exploitation profonde. Et je le redis, si elles font pas ce travail, rien n'ouvre. Vous n'allez pas déposer vos enfants à l'école, à la crèche. Vous n'allez pas aller à votre travail. Vous n'allez pas aller au centre commercial. Vous n'allez pas aller à l'église. Vous n'allez nulle part. Après 3 jours, c'est fini, ou même 2 jours, ou peut-être même une journée. Et ça, c'est partout. C'est pas seulement dans les pays riches. Vous allez dans n'importe quel pays, les bâtiments administratifs, les banques, tout ça sont nettoyés. Même dans le pays le plus pauvre, vous voyez les bâtiments de la présidence, du parlement, tout ça. Donc, ça repose vraiment. C'est aussi un travail qui massivement, je le redis, repose sur les femmes migrantes au niveau international, au niveau global. Donc des milliers de femmes circulent pour nettoyer le monde. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi auquel je me suis intéressée dans le féminisme décolonial, c'est, je le redis, je l'ai dit, pourquoi cette obsession avec les femmes voilées? Qu'est-ce qui s'était passé pour que une femme voilée devienne l'antithèse de la femme libre moderne en Europe? Donc la femme moderne libre, elle n'est pas voilée. La femme voilée, elle est nécessairement arriérée, elle s'est pas libérée de son père, de son frère, son mari, elle est nécessairement, vraiment, elle n'a pas compris, quoi. Elle ne sait pas ce que c'est qu'être libre. Donc nous, féministes blanches, on va aller lui dire ce que c'est qu'être libre. Et on va lui dire, si tu te voiles, c'est que tu n'es pas libre. Et moi, je me disais, mais enfin, quand même, le voile, c'est pas parce que vous mettez une voile sur la tête qu'on vous enlève le cerveau. Je veux dire, vous continuez à réfléchir. Je veux dire, enfin, je ne sais pas, moi, je peux avoir un voile sur la tête, je continue à penser. Je veux dire, donc ça m'avait intéressé de voir quand ça commence. Et mon hypothèse était déjà, mais il fallait que je la vérifie, hein, que c'était les féministes de gauche qui avaient apporté ce discours. Et que c'est parce que c'était des féministes de gauche qui l'avaient apporté que ça avait eu ce succès. Parce que je pense que si ça avait été des femmes de droite, ça n'aurait pas eu ce succès, autant. Alors que la gauche elle-même, toute une partie de la gauche en Europe, est devenue islamophobe. En Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne aussi, des féministes, ce sont des féministes de gauche qui ont porté ce discours en disant. Donc j'avais identifié ça en France. Dans les années 90, ce sont des féministes qui écrivent, qui disent, non, mais femmes voilées, c'est terrible, et si on les laisse, elles vont nous mettre en danger. Les acquis que nous avons eus de liberté vont être mis en danger par l'islam. Et comment dire, l'image de l'islam répressif, c'est la femme voilée. Et j'ai retrouvé donc des lettres qu'elles écrivent aux ministres, tout ça, c'est-à-dire qu'elles insistent, elles disent, mais vous n'avez pas compris, c'est très dangereux ce qui se passe. Et nous sommes des féministes de gauche et nous vous le disons. Et là, ça va commencer, donc 2004, la première grande affaire contre le voile en France. Non, pas 2004, pardon, dans les années 90. C'est 2004, c'est la loi qui interdit le port du voile dans les lieux publics en France, dans les écoles, tout ça. Et ce sont vraiment des féministes qui vont porter ce discours. Donc mon hypothèse aussi, c'était qu'en fait, les droits des femmes vont basculer, enfin, vraiment plus fortement à la fin des années 90, vont servir au néolibéralisme et à l'impérialisme. Les guerres impérialistes ne sont pas menées au nom des droits des femmes au Vietnam, par exemple, ou en Algérie, un peu en Algérie, mais ça commence, mais enfin quand même. Alors que la guerre en Afghanistan, quand les États-Unis lancent la guerre contre l'Afghanistan, Madame Bush va, Laura Bush, va aux Nations Unies et fait un discours en disant, c'est parce que nous avons découvert la situation des femmes afghanes et leur écrasement et leur oppression que nous devons aller les libérer. Et c'est les premières fois qu'on entend des guerres d'intervention par des grands pays menées au nom des droits des femmes. Évidemment, c'est aussi pour punir les talibans, tout ça, mais le discours des droits des femmes commence à entrer. Et puis j'avais repéré aussi dans les grandes corporations, dans les années 90-2000, on commence à avoir toujours un chapitre sur la question des droits des femmes. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein de programmes subventionnés par des grandes fondations ou par les organisations internationales en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Asie ou continent africain, qui ont toujours, toujours, toujours un chapitre sur le fait que ce projet doit participer à l'émancipation des femmes. Sinon, le projet, il n'est pas retenu. Que ce soit un projet pour faire, je sais pas, un puits, une coopérative, une clinique, n'importe quoi. Tout ça doit. Donc, on voit arriver vraiment dans toute une politique, la question des droits des femmes devient vraiment importante. Alors, on pourrait se réjouir, on pourrait dire, ben, c'est formidable, c'est quand même mieux que. Sauf que mon hypothèse, c'est que ça servait une nouvelle mission civilisatrice, une mission civilisatrice reformulée, qui était quand même de dire toujours que ces femmes ne savaient pas ce qui était bon pour elles. Et que c'est nous, organisations internationales, fondations, qui allions leur dire. Donc c'était une critique de ça. Donc le féminisme décolonial, c'était qui nettoie le monde et pourquoi on s'y intéresse pas alors que c'est un travail féminin, tout ça, et qui permet même à des féministes d'avoir des conférences féministes. Deux, cette question des femmes voilées, des droits des femmes devenus une arme idéologique dans les discours des grandes puissances comme les États-Unis ou autres. Et donc, c'était, est-ce qu'un féminisme qui est décolonial propose justement, si on propose de partir de ces situations, ce n'est donc plus simplement la libération des femmes, au sens les femmes contre les hommes, etc., demander l'égalité, mais c'est la libération de toute la société, des femmes et des hommes. C'est-à-dire puisque ça s'appuierait sur une contestation de l'exploitation, de la dépossession, de l'extraction. Donc ça toucherait aussi les hommes. Donc ça a été ça, féminisme décolonial. Et je dois dire que ça a eu un énorme écho chez les jeunes femmes, enfin chez les jeunes en général. Quand j'ai présenté le livre, j'avais devant moi un public de jeunes. Jeunes. Je ne voyais pas de tête blanche. Je voyais que des jeunes. Et donc, ça m'a intéressée parce que vraiment, il y avait avec une compréhension de nouvelles choses, là, vraiment, c'était très intéressant. Vraiment, vraiment, c'est la jeunesse. Et que c'est pas seulement en France, hein, partout où j'ai présenté le livre, c'est des jeunes. Donc, ça, c'était intéressant. Et ça, c'était de nouveau, c'était aussi un peu justement pour dire, mais pourquoi il y a des féminismes qui sont des féminismes réactionnaires et qu'on peut être féministe et réactionnaire. Parce que tout le monde, parfois, on me disait, mais alors c'est pas des vrais féministes. Je dis, mais c'est pas ça le problème. Après tout, ça peut être des féministes. On peut être féministe réactionnaire. Je veux dire, parce que le féminisme, dans ce cas, c'est pas ça, c'est pas la libération. C'est, en fait, je veux aussi devenir à la tête de corporation. je veux être général dans l'armée, je veux, vous voyez, c'est bon, donc c'est de vous participer au régime tel qu'il est, enfin au régime d'oppression, mais vous voulez en faire partie. Mais moi, c'est pas ce féminisme qui m'intéresse. Donc ça, c'était. Et à partir de là, si vous voulez, évidemment, un autre fil qui était tiré, c'était le féminisme carcéral, qui s'inscrivait aussi dans cette reprise, c'est-à-dire où des féministes reprennent, comment dire, font entendre leur voix sur des questions qui, juste là, étaient restées masculines. C'est la question de la prison, la question de la punition. Et elles intervenaient en disant, mais pourquoi les crimes commis contre les femmes ne sont pas punis? Et très rapidement, d'ailleurs, ça c'est venu de Brésil et États-Unis, où des féministes noires ou racisées ont dit, mais attention, parce que la prison, elle est déjà remplie d'hommes noirs. Donc est-ce que vous voulez en mettre plus, quoi? Est-ce que c'est la prison qui va être la solution à la violence contre les femmes? Le monde carcéral est un monde raciste, racial. Les prisons sont pleines et un monde de classe. On sait qu'un homme de la grande bourgeoisie ne va pas, pour un crime, aura pas la même punition qu'un homme d'une classe populaire ou de communauté noire ou indigène ou racisée, quoi. Donc, c'était poser ces questions-là. Faites attention. Vous ne voulez que de la punition et de la prison. Vous demandez plus de prison, plus de carcéral, et vous ne voyez pas que ça va d'abord toucher les communautés noires opprimées, racisées. Est-ce que vous ne voyez pas? Donc le mouvement féministe anticarcéral n'était pas de dire il ne faut rien faire, était de dire on ne peut pas faire confiance à l'État et au tribunal, puisque toute l'histoire de l'État et du tribunal nous montre que ceux qui sont punis sont d'abord les hommes racisés. Donc, voilà. Et là, je pars de cette chanson des féministes chiliennes, Un violeur sur ton chemin, où elles disent très clairement, dans les premières phrases de leur chanson, le violeur, c'est l'État, c'est le juge, c'est le policier. Donc, si vous voulez, elles renversent les choses en disant, mais qu'est-ce que c'est que le viol, sinon effectivement tout un système patriarcal qui protège les puissants et que l'État protège, que l'État lui-même protège. Et puis elle montrait évidemment, par exemple, comment la police elle-même, très souvent en arrêtant les femmes, pratique des violences sexuelles. Mais dans le livre, je voulais aussi montrer que les violences sexuelles sont majoritairement évidemment contre les femmes, mais qu'il y en a aussi contre les hommes. Que la domination, enfin, je veux dire, l'oppression policière ou de l'armée, c'est souvent sexuelle. Donc les femmes sont violées, mais les hommes aussi. Ou les hommes sont humiliés sexuellement. Enfin, je veux dire, on l'a vu à Abu Ghraib, en Irak, là, où c'était des jeunes femmes, marines, qui humiliaient les hommes. Prisonniers, les Irakiens prisonniers, mais il y a des tas d'autres exemples qui montrent que, en fait, le corps de l'opprimé, il est d'abord féminin, donc le corps qui est torturé, violé, mais il peut être aussi masculin. Donc le livre, c'était de s'opposer au féminisme carcéral, de dire que, il n'y avait pas plus de protection. Par exemple, aux États-Unis, les prisons sont surchargées, sont pleines, il n'y a pas moins de violence, il n'y a pas moins de fémicides. Ça n'a pas réglé la question. En Argentine ou au Brésil, où le nombre de féminicides est énorme, les prisons sont surchargées, ça n'a pas mis fin à la violence. Donc la prison n'est pas une solution déjà. Et puis alors, je sais pas, moi je disais, mais il suffit d'aller dans une prison pour comprendre qu'on ne veut pas de ça. On ne veut ça pour personne. Alors, que faire avec les criminels, les méchants? Ben, effectivement, il faut se poser la question, quelle forme de punition la société doit avoir contre ces personnes? Mais on sait que dans les prisons, parce que chaque fois on me pose cette question, je dis, mais les prisons, c'est 80% de gens pour pas grand-chose. Les grands criminels, ce n'est pas les 80% de gens qui sont dans les prisons. Ce n'est pas vrai. C'est le pauvre gars qui a volé un truc ou qui a vendu un peu d'herbe. Et puis, ce que montrent ces féministes d'Amérique du Sud des États-Unis ou même certaines en Europe, c'est que le tribunal est un tribunal patriarcal, est une loi patriarcale. Donc, pourquoi on irait faire confiance à ces gens-là?
Vous dites féminisme carcéral et punitif est directement lié à cette idée de punition en prison et le civilisationnel, peut-être,
Oui.
ou en tout cas.
Alors évidemment, la question du punitif, moi quand je dis ça, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire aujourd'hui. Vous voyez, contre les viols ou les meurtres. Mais il faut penser plus loin que le punitif. Vous voyez, parce que parfois il y a des histoires, notamment en Espagne, qui font scandale. Donc après, les procès sont repris, les hommes sont vraiment punis. Mais ça ne s'attaque pas à la structure profonde de la société. Je veux dire, il faut éduquer, il faut que les petites filles, dès l'école, elles apprennent que si les petits garçons les embêtent, elles ont le droit de se défendre. Elles ont le droit de se défendre. Il faut que ça soit terminé, le fait que, ah non, mais tu étais dans la rue à 4 heures du matin, je veux dire, quand même, t'as cherché. Je veux dire, tout ça doit être fini. On est loin de ça. On est vraiment loin de ça. Donc, il y a plein de choses, effectivement, à changer. Mais, donc, ça, c'est une chose. Le féminisme civilisationnel, ce que j'appelle civilisationnel, c'est plutôt ce féministe qui a emprunté le discours de la mission civilisatrice coloniale, l'a réadapté au XXIe siècle, parce que quand même on n'est plus au XIXe, c'est-à-dire la mission civilisatrice, c'était l'expansion coloniale déguisée en générosité. Nous allons vers ces peuples, nous leur apportons la lumière. Ce sont des peuples plongés dans la nuit. Ça, c'est vraiment des mots, par exemple, de Victor Hugo, hein. L'Afrique est plongée dans la nuit, nous allons l'éclairer. Donc, c'est la mission civilisatrice, c'est éclairer, apporter les progrès, et passe pour des gens qui ne savent pas. Pour des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la liberté, l'égalité. Ils comprennent, ils n'ont pas ça dans leur philosophie, dans leur manière de voir. Donc, on va leur apprendre. Et ce féminisme civilisationnel, c'est un féministe qui dit, mais nous voulons être bonnes avec ces femmes. Nous voulons être généreuses. Et en fait, nous voulons leur apprendre la liberté et l'égalité. Elles ne le savent pas. Parce qu'elles sont dans des sociétés arriérées où le patriarcat est puissant. Donc nous allons leur donner ces idées-là. Or, dans toute société, les femmes savent, peut-être certaines ne le savent pas, mais en général, elles savent qu'elles sont opprimées. Et elles n'ont pas besoin de quelqu'un qui vienne leur dire. Après, c'est comment en sortir, mais elles savent qu'elles sont opprimées. Elles savent que le patriarcat est puissant, qu'il est soutenu. Donc, ce féminisme civilisationnel qui parfois pose les conditions de solidarité avec les femmes du Sud, si elles acceptent ça. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret, alors, les luttes des femmes en Iran, c'est bien parce elles veulent enlever le voile, et d'ailleurs, je soutiens entièrement le mouvement des femmes iraniennes, mais les femmes qui veulent rester voilées en Indonésie, c'est vrai, c'est pas bien, voyez? Donc ça a rien à voir avec qu'est-ce que ces femmes disent, qu'est-ce qu'elles font, comment elles se battent, et que elles peuvent être et qu'après tout, elles peuvent trouver dans l'islam aussi des arguments contre l'oppression, comme dans la religion catholique, des femmes ont trouvé à l'intérieur de l'évangile, des arguments pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de raison que les hommes dominent. Donc je vois pas pourquoi on va empêcher les femmes d'être musulmanes ou autres. Donc ce féminisme civilisationnel, c'est un féministe qui a une idée de ce que c'est qu'être une femme libre. Et cette idée doit être universelle. Et si les femmes n'adhèrent pas à cette idée, c'est qu'elles n'ont pas compris. Et je dis, mais c'est pas à vous de le dire. Il n'y a pas une, ça sera peut-être pas exactement ce que vous souhaitez ou ce que même moi peut-être je souhaiterais, mais ça ne me regarde pas. D'une certaine manière, moi je suis pas là-bas, je suis pas, je fais confiance aux femmes pour qu'elles sachent quel est le combat qu'elles doivent mener. Et si pour l'instant, par exemple, c'est le combat pour de meilleurs salaires ou pour le droit à la terre, qui je suis pour leur dire, ah non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire que vous ayez le droit du divorce. Enfin, je sais pas, moi, les gens sont intelligents. Les gens savent, les femmes savent ce qu'elles veulent. Elles le découvriront elles-mêmes. C'est pas aux femmes d'Occident de le dire.
Oui, à l'Occident en général et dans ce
Oui.
cas-là, voilà. Voilà. Et ça va, Javier? Et donc, il y avait un. Je l'ai mis dans la note, cette phrase de Gloria Wecker.
Oui. Les femmes ne savent pas qu'elles sont blanches, c'est ça?
Non,
Non?
je sais pas si vous n'arrivez pas à reconnaître qu'elles sont blanches.
Ouais, c'est ça. Oui, en fait, la blanchité, elle a réussi à faire que, en fait, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Donc, quand vous dites à une femme blanche qu'elle est blanche, elle est complètement désarçonnée et même elle trouve que c'est agressif. Alors qu'elle-même, elle pourra dire de cette femme, ben, elle est noire ou elle est asiatique, ça viendra naturellement. Mais de lui dire, mais toi tu es blanche, elle ne supportera pas. Elle ne veut pas reconnaître, elle ne veut pas apprendre ça. Parce que finalement, un, la blanchité est devenue la couleur universelle. Je veux dire, il n'y a pas de couleur, si vous voulez, y a pas, ça n'existe pas. Vous voyez, parce que c'est devenu tellement quelque chose, mais c'est que, en fait, ça n'existe pas. Donc, quand les personnes racisées ont commencé à dire, mais vous êtes blanche, ça a été un choc pratiquement. Vous voyez, parce que c'était un choc, mais non, mais moi je suis égale à tout le monde, je ne comprends pas. Donc il a fallu faire tout. Mais non, vous êtes, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, tel exemple, tel exemple, tel exemple, tel exemple. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est très, très difficile. Moi, je le vois autour de moi quand vous dites à des femmes blanches qu'elles sont blanches, elles ne le supportent pas. Elles ne supportent pas parce qu'elles disent, mais je suis pas une colonialiste. Donc elles ne comprennent pas, si vous voulez, qu'elles font partie d'un système. Et que, par exemple, quand il y a des jeunes femmes blanches qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais vous vous débarrassez de la blanchité. C'est pas une question de changer de peau, de couleur de peau. Je veux dire, on n'est pas en train de délirer. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'être blanche? Qu'est-ce que ça vous donne comme privilège? Est-ce que vous êtes penché là-dessus? Est-ce que vous avez remarqué que quand vous entrez dans un magasin, y aura beaucoup moins de problèmes que si juste après vous, même vous faites que votre ami qui est noir entre. Est-ce que vous allez remarquer la différence de comportement des gens de la boutique? Est-ce que vous savez que, par exemple, à l'université, on va beaucoup plus lui dire, mais pourquoi tu veux faire ce sujet? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quoi? Mais pourquoi tu es intéressé autant dans les origines? Tu es trop obsédé par ça? Comme s'il n'y avait pas de couleur. Alors que, par exemple, elle veut faire des choses sur son pays ou sur ses origines. Ou, justement, elle ne veut pas le faire. Parce que moi, j'ai eu des exemples d'étudiantes qui me disaient, elles étaient d'origine africaine. Elles voulaient, par exemple, travailler dans l'histoire de l'art, sur les surréalistes. Et on leur disait, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux pas travailler sur l'art africain? Africain, mais j'en ai rien à faire, c'est pas mon, ça m'intéresse pas. Donc c'est toujours, si vous voulez, la projection de choses, alors que sur la jeune femme blanche, il y aura beaucoup moins de projection de tu devrais pas faire ça, etc. Il y aura d'autres formes de projection, de sexualisation, mais il y aura pas cette forme. Donc c'est très difficile pour les femmes blanches, qu'il y a une telle naturalisation d'être blanche, que c'est devenu tellement une non-couleur, c'est les autres qui ont une couleur, que c'est très difficile pour elles d'entendre ça. Et puis elles sont très protégées souvent. Elles sont très protégées de cette réalisation, si vous voulez. Alors par exemple, quand elles vont à l'étranger et qu'elles sont interpellées en lui disant « Mais toi la blanche », elles sont très choquées et elles trouvent que c'est raciste. Mais elles vont dire « Mais c'était, j'étais, parce que moi je suis venue là, juste je voulais comprendre. » Enfin, vous voyez, et parce qu'elle ne voit pas que c'est pas d'elle qu'il est question, elle personnellement, c'est que les gens voient en elle une représentante d'un système qui fait qu'elle aura 10 fois plus de privilèges qu'eux. Une femme blanche qui arrive au Sénégal, même en vacances, hein, et qui n'est pas particulièrement raciste, mais elle a ce privilège de pouvoir prendre un avion, de venir à Dakar, il n'y a pas de problème, on lui demande rien. Une Sénégalaise n'a pas du tout la même liberté. Le visa va être beaucoup plus compliqué. Elle va être noire quand elle arrive. Elle peut être mise de côté à la douane. Et vous avez vraiment vos papiers? Est-ce que vous avez assez d'argent pour rester? Parce que le soupçon va se porter sur elle. Le soupçon ne se portera pas sur une jeune femme blanche qui arrive à Dakar ou je ne sais pas où elle en est. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle sera beaucoup plus protégée. Il y a aussi des protections. Si vous êtes citoyenne européenne, vous êtes protégée par votre ambassade. Si vous avez quelque chose, vous allez voir à votre ambassade de France, on va vous protéger. Ou ambassade d'Italie, ou je sais pas. Si vous êtes sénégalaise, vous n'avez pas la même protection dans le monde. Ce sont juste des faits. C'est pas une question, ah ben c'est pas gentil, ça rien. C'est comment dire, c'est le produit d'une histoire. Donc vous êtes le produit de cette histoire. Si vous ne voulez plus être complice de cette histoire, il y a des possibilités. Vous vous battez, vous participez aux luttes, vous écrivez des choses. Ce n'est pas, comment dire, c'est pas un destin. Vous êtes née blanche dans un pays majoritairement blanc, mais ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous devez obéir à la blanchité. Vous pouvez tout à fait désobéir. Vous ne serez jamais noire, vous ne saurez jamais ce que c'est qu'être une femme noire dans un monde raciste, mais au moins vous saurez ce que c'est qu'être une femme blanche et vous pourrez vous poser des questions sur ce que ça vous donne et peut-être défaire ces privilèges. Le féminisme essentialiste qui disent, bon, toutes les femmes sont sœurs, nous sommes toutes égales, moi, j'y crois pas du tout une minute. Même moi, je sais que j'ai 10 fois de plus de privilèges que des tas de femmes dans le monde. Je suis une citoyenne européenne, j'ai un passeport européen. Je veux dire, je peux, ça me protège énormément. En plus, je peux voyager dans je ne sais combien de pays sans visa. Je veux dire, ce sont d'énormes privilèges. Et puis, je vis en France. Je vis en France, c'est-à-dire que même si la France, il y a d'énormes problèmes, il y a beaucoup d'inégalités, je ne suis pas une migrante sur les routes à fuir une famille abusive ou la guerre ou la pauvreté. Donc on se calme un peu, quoi. On se calme. Je trouve que il y a quelque chose même de concret, quoi. Je suis pas en train de parler de choses extraordinaires. Je veux dire, on n'est pas pareil, c'est pas vrai. Les situations, elles sont concrètes. Elles s'enracinent dans du concret. C'est pas que des idées. Donc le féminisme qui dit oui, nous sommes toutes sœurs, tout ça, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose, par exemple, d'être même en France où il y a tous les problèmes politiques qu'on connaît, et d'être dans un pays, par exemple, comme la Russie, où vous n'avez aucun droit de parole, où il y avait une censure, où par exemple, je sais pas. Donc on a affaire aussi à des situations qui sont différentes. Tout d'un coup, vous êtes en Italie, ben, vous avez une première ministre qui vient d'un parti qui se dit clairement fasciste, ben ça change quand même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme là-dedans? C'est pas votre copine, hein, Mélanie. C'est pas votre sœur, hein. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on est femme qu'on va partager. Donc, même cette histoire, moi, je suis très, très méfiante de que Mélanie comprendrait. Peut-être que Mélanie, pour prendre son exemple, elle pourra, oui, dire je suis femme parce que malgré tout, elle a certainement été traitée différemment, donc peut-être dans son parti. D'être une femme. Mais enfin, quand même, on va pas. Non, il y a des choses. Non, elle ne sera pas notre sœur. C'est évident. C'est évident. D'abord, sa politique anti-migrant, il ne suffit pas qu'elle dise que, par exemple, elle serait pour le divorce, hein, parce que quand même, bon, voilà, elle serait pour le divorce. Mais sa politique anti-migrant, c'est une politique anti-féministe. C'est ça que je veux dire, vous voyez? C'est que être féministe, c'est pas simplement je dois être l'égale de l'homme. C'est comment on traite les migrants, comment on traite les Roms, comment on traite les Noirs, comment on traite les Arabes, comment on traite les personnes pauvres, comment on traite les personnes non valides, les personnes âgées dans ce pays. C'est ça, être féministe. C'est pas simplement, ah oui, mais alors les hommes, voilà. Non, c'est. Enfin, pour moi, hein, être féministe, c'est vraiment. C'est vraiment. Comment la société va être plus libre, plus juste, plus juste? Comment on va être un peu plus joyeux, parce que c'est pas très joyeux. Et donc, et effectivement, je vois un triangle État, patriarcat, capital. Et moi, j'appelle ça l'État racial patriarcal, parce que c'est un État qui s'appuie sur le patriarcat, qui s'appuie, pas le patriarcat au sens que, par exemple, l'homme qui est au pouvoir est un horrible personnage. Si on compare, par exemple, Trump et Macron, d'un côté, Trump, vous avez un homme d'une vulgarité totale, qui parle des femmes d'une manière absolument vulgaire et horrible. Et Macron qui veut se montrer, il a épousé une femme plus âgée, il ferme pas la porte dans la figure des femmes, il les frappe. Bon. Mais c'est les mêmes politiques. C'est les mêmes politiques néolibérales qui vont affaiblir les services publics et les premières touchées vont être les femmes pauvres et racisées. Donc, ils se comportent pas de la même manière. Il y en a un qui est plus moderne, l'autre est... Voilà. Mais au fond, quelle est leur politique? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et je vois, moi, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on assiste à une contre-révolution globale. Vraiment, on voit que ce soit l'Argentine avec qui ils ont élu, les États-Unis, l'Europe, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie, on voit, ben, je sais pas moi, l'Inde avec le BJP, avec Modi. Quand j'appelle une contre-révolution globale, c'est que je pense aussi que tous ces États patriarcaux anciens ont eu très peur de voir émerger tant de mouvements. Alors, vous avez les communautés autochtones qui demandent la parole et qui parlent. Vous avez les gays, les trans, les lesbiennes, les noirs, les arabes, les roms, non mais, qui disent à l'État patriarcal racial, non, c'est fini là. Ça fait longtemps qu'ils le disaient, mais c'est beaucoup plus fort aujourd'hui, c'est beaucoup plus global. Et donc, pour moi, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que la réponse réactionnaire, enfin, au sens de réaction, est à la hauteur de la peur qu'ils ont de tous ces mouvements. Parce qu'il y a des mouvements. Il y a d'énormes mouvements dans le monde, partout. Quand on voit les femmes en Argentine, les femmes au Mexique, les femmes en Espagne, les femmes en Palestine, enfin, je veux dire, ou les mouvements de libération, on voit qu'il y a un glissement qui se fait. Avec beaucoup de réflexions. Alors, par exemple, il y a des réflexions. Est-ce qu'on peut avoir une nation sans État? Est-ce que ça existe, la nation sans État? Est-ce que l'État est nécessaire? Est-ce que l'État n'est pas toujours une structure oppressive? Est-ce qu'on ne peut pas répondre aux besoins d'une nation sans passer par l'État, c'est-à-dire la structure étatique? Les questions reviennent. Les questions reviennent aussi d'organisation plus horizontale, d'organisation de mouvement plus horizontale, moins verticale, le leader et puis tout ça qui descend. On voit, si vous voulez, que toutes les luttes qui ont été menées depuis des années, hein, bon, et puis même historiquement beaucoup plus longtemps, mais tous les mouvements aussi des années 60 ont porté aussi des questionnements. Comment on s'organise aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire s'organiser? Qu'est-ce que ça veut dire les alliances avec... On voit, si vous voulez, que c'est pas que tout est nouveau, mais que quand même, ça a apporté des questions nouvelles. On veut s'organiser autrement. Moi, j'avais été intéressée en Argentine, comment le mouvement féministe va finalement s'allier aux piqueros, c'est-à-dire les personnes parce que elles comprennent qu'elles ont une vision de la ville qui est quand même d'abord un peu de femmes de classe moyenne et qu'elles ont besoin de s'allier. Et ça, c'est des choses qui ont existé un peu avant, mais qui deviennent beaucoup plus, ce que je veux dire, elles deviennent plus systématiques aujourd'hui. Donc, il y a État, capital, patriarcat, et donc avec toutes leurs dimensions raciales, sont en train d'être vraiment profondément questionnés. Tous les mouvements, je le dis, ou tous les travaux qui ont été faits toutes les 20, 30 dernières années ou plus, ont finalement porté leurs fruits. On voit, si vous voulez, ce qui se passe même aux États-Unis, la remise en cause de ce que c'est que cet État. C'est-à-dire la compréhension que c'est un État qui s'est fondé sur l'extermination et le nettoyage ethnique, comme le Canada, comme l'Australie. La vieille Europe, elle s'est fondée sur la colonisation, toute la richesse, etc. Puis voilà. Mais les États-Unis, le Canada, l'Australie, après, c'est des constitutions un peu après. Et c'est sur le nettoyage ethnique, c'est ce qu'on voit en Israël. Et on voit que, si vous voulez, cette question de colonialisme, de peuplement, c'est totalement contradictoire avec la démocratie. Donc, vous ne pouvez pas avoir de démocratie, vous ne pouvez pas avoir fondée sur l'extermination et le nettoyage ethnique. Et on voit que cette question de colonisation, elle prend un nouvel aspect, parce qu'elle est comprise pas seulement de la manière de l'anticolonialisme contre le colonialisme du XIXe siècle, bon, qui se poursuit jusqu'au XXe encore, mais aussi contre des nouvelles compréhensions de ce que c'est que la colonialité, pour reprendre ce terme de la théorie sud-américaine. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on n'en a pas fini avec la colonisation, avec des formes nouvelles. On n'en a pas fini. Que, pour revenir sur votre question, que le capitalisme, il a constamment besoin de coloniser. Parce qu'il a besoin de produire de nouvelles marchandises, il a besoin de nouvelles extractions, de nouvelles dépositions. Il faut qu'il s'étende, parce que sinon il va mourir. Je veux dire, il peut pas offrir toujours la même chose. Donc, il y a une extension qui est profondément donc liée à une forme de colonisation, que ce soit la colonisation de nos mentalités, la colonisation maintenant on le voit par les algorithmes ou l'intelligence, c'est-à-dire la manière où on perd de plus en plus notre liberté et notre autonomie. Et donc le mouvement qui se développe aujourd'hui contre ça, c'est un mouvement qui remet en cause État, patriarcat et capital, mais en allant en tenant compte des nouvelles armes, si je puis dire, de l'État, du patriarcat et du capital. Toujours racial d'ailleurs. Donc c'est et puis aujourd'hui dans ce triptyque, on voit bien qu'il produit aussi le désastre climatique, qui est une vraie question politique, qui est une vraie question politique qui se pose parce que quand il y a eu je sais pas, il y a 2 ans, comme je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je sais pas. Je lis que finalement la cause, comment dire, la cause de mortalité dans le monde la plus élevée, c'est l'air pollué. Et moi, je vais vous dire que je croyais que c'était des maladies ou la malnutrition ou la guerre. L'air pollué. Donc je commence à m'intéresser à ça. Je lis 25 articles de scientifiques, tout ça. Et je me dis donc, en fait, le capitalisme racial a construit un monde irrespirable pour des milliards de personnes. Pas simplement pour des milliards de personnes. Donc après, vous apprenez que dans tel endroit, les gens, ils meurent à 30 ans parce qu'ils ont les poumons pourris, quoi, que le nombre d'asthmes, de maladies respiratoires augmente énormément, qu'il y a des enfants dans le sud global qui naissent avec des plus petits poumons. Parce que justement, ça se développe plus, donc on se dit, mais qu'ils naissent aussi avec beaucoup plus de maladies respiratoires, ce qui va les rendre beaucoup plus fragiles, je sais pas, une grippe, une épidémie, n'importe quoi qui passe, puis de toute façon, si vous ne pouvez pas respirer, hein, vous ne vivez pas longtemps. Donc c'était de s'intéresser aussi à cette dimension de ce État patriarcat capital, qui fait que les vies ne comptent plus du tout, quoi. Il y a des milliards de vies qui ne comptent pas du tout. Et que, en fait, ces mariages ont construit un monde irrespirable, mais littéralement. C'est pas une métaphore. C'est littéralement, les gens ne peuvent plus respirer. Des milliards de personnes ne peuvent plus respirer. Et donc là, tout d'un coup, ça, parce que c'est en l'air, si vous voyez, c'est presque invisible parfois. Parfois, il y a l'énorme brouillard, fog. Alors on voit que vraiment la pollution, ça se voit, mais très souvent on la voit pas. Donc en fait, c'est un empoisonnement. C'est un monde d'empoisonnement. Donc, si vous voulez, ça pose des questions, je trouve, très intéressantes. Et je trouve que dans tous ces mouvements aujourd'hui, qui justement essayent de lier race, classe, genre, religion, mais aussi environnement, la question sont très prometteurs pour moi. Ça ouvre des chemins extrêmement fertile pour justement imaginer un monde post-raciste, post-capitaliste et post-patriarcal.